te faire enculer, Tintin.
Il est même pas chargé, bouffon. Celui-là, il l'est. Lequel de vous, ben d'enculé de fils de pute, veut parier avec moi que celui-ci n'est pas chargé? Hé, faut que ça crame! Faut que ça crame!
Voilà vos verres.
Bienvenue à tous sur Full Boxo, l'émission de Gascogne FM 107.3 pour cette nouvelle émission de d'octobre. Donc toujours en compagnie de l'équipe de Full Boxo, à savoir Matt et Xav. Salut les gars.
Salut.
Comment ça va?
Super.
Ouais, ça va.
Bon, écoutez, bon, pour cet enregistrement, on va essayer de faire quelques petits débats plutôt ciné, je crois, cette année, orienté ciné.
Ouais, bah, apparemment, on va parler un peu de cet été, quoi, ce qui s'est passé un peu dans le box-office, quoi.
Ouais, on va essayer dans Full Boxon parler du box-office un peu. Moi, j'avais envie de vous parler, d'avoir votre avis aussi sur les blockbusters de cet été. Voilà, donc parce qu'on a eu quand même une foultitude de blockbusters, mais la majorité, on peut dire, à nous trois, on en a vu pas mal, je pense. La majorité, c'était quand même des grosses bouses.
Ah
ouais. Ouais, c'est quand même pas fabuleux, quoi.
Ouais.
C'est ça pourrait du concept un peu des fois, mais dans les faits, ça remplit pas du tout ses promesses. Hein.
Ouais, c'est pas forcément les mecs avec des déguisements et des slips sur le truc qui gagnent.
Ouais, c'est ça. Quoi. Et pourtant, bon, moi j'ai les chiffres sous les yeux là. Moi, je peux vous dire donc si Iron Man qui est sorti donc un peu avant l'été, mais on peut quand même le classer
ouais, dans les blockbusters.
Voilà. Ouais, donc Iron Man 3. Donc j'ai les chiffres précis de cet été. C'est 4 400 000 en gros. Voilà. Donc on est sur une production en français. Je parle. Hein, je parle box office français.
Ouais.
On est sur une production à je sais plus 150 ou 250 millions de dollars.
Ouais.
Et on est à 4 millions et demi en entrée France.
Donc ouais. Ça n'a pas atteint trop les objectifs, quoi. Donc
voilà. Et donc moi, j'aimerais vous poser la question. À votre avis, pourquoi?
Ben parce que c'est peut-être des sombres merdes aussi les films.
Ouais, je crois qu'on est là.
Le Iron Man, ils sont partis quand même. Bon, le premier était un peu moyen. Deuxième, peut-être un peu mieux.
Ouais.
Peut-être un peu mieux deuxième point de vue scénario et tout, parce que le premier, bon, tout le monde connaissait l'histoire d'Iron Man, comment il devenait comme ça et tout.
En fait, tout le monde s'est vite dit, il faut quand même avoir lu ses Marvel, hein.
Ouais, voilà, c'est sûr.
Oh, le premier quand même, je pense qu'on pouvait quand même saluer la prestation de Robert Downey Jr. qui donnait un nouveau souffle au super-héros avec cet aspect.
Sûr. C'est sûr. Ça c'est vrai, ouais.
Avec l'aspect un peu détaché, décalé, qui était vraiment pas mal, quoi.
Ouais, mais bon, j'ai trouvé qu'il s'analysait quand même dans le troisième avec le Mandarin.
C'est ça.
Parce que c'est le Mandarin, pour moi, qui suis un peu les comics, le Mandarin, j'ai jamais vu comme ça dans aucun comics, quoi. Là, il le présente comme un mec, en fait, c'est un...
C'est un acteur.
Ouais,
c'est un acteur qui joue le mandarin.
Ouais, alors que le mandarin, normalement, c'est quand même le pire ennemi séculaire d'Iron Man, quoi.
Ouais, c'est ça.
Un des pires ennemis.
Voilà.
Quand on arrive au film à ça, comme il développe le truc... on tombe sur ça, le mandarin, bon, il nous fait rigoler, quoi.
Voilà, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on tombe sur un film de super-héros, donc classique, Iron Man, machin, mais on tombe sur une espèce de phase complètement décalée avec Ben Kingsley qui joue le mandarin, qui est en fait un acteur anglais complètement lunaire, qui est embauché par une organisation à la con pour faire croire que c'est lui le méchant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça pathétique, mais presque, quoi.
Ouais, pour les fans de comics, quand ils ont commencé à parler, bon, chaque fois, ils envoient les super-vilains... comme par exemple Spider-Man, tout ça, et ils disent un peu en avance qui c'est le super vilain.
Ouais.
Et tout le monde se dit, ouais, le mandarin, putain, ça va envoyer et tout, ça va, c'est le pire ennemi, déjà au 3, il va arriver, ça fait tôt et tout dans l'histoire. Et en fait, ça tombe à plat, quoi.
Ça tombe à plat, ouais.
Ça tombe à plat, l'autre est.
Attends, parce que là on parle d'Iron Man, mais on va continuer dans la liste des pourritures de cet été, quoi. Donc en deuxième, on a eu, bon, moi chez Méchant, bon, ça c'est compréhensible.
Pas vu.
Ouais, moi non plus, mais film d'été pour les gamins, voilà, la suite du truc. A priori, donc, je connais des personnes qui l'ont vu, bon, ça reste dans la phase, mais bon, c'est pas ça notre principe. Troisième au box-office, donc Fast and Furious 6, les gars.
Gros fan.
Ça existe encore, ce truc-là?
Mais on en est au 6, et je crois que le 7 est en préparation.
Ouais. Mais ce genre de franchise, moi je sais, pourtant j'aime les films de
bagnole.
Ouais, les films de bagnole ou la série B, mais ça mène, je sais pas.
Ouais, c'est un gros clip MTV pour
c'est rien à foutre, quoi. C'est comme l'équivalent français à la Taxi et ces trucs et tout là.
Exactement.
On s'entend pas.
Ouais, non, mais attends, préparez-vous parce qu'on continue. Donc on arrive à World War Z, on avait déjà donc chroniqué
avec CRP.
Mais déjà, on peut remettre en perspective par rapport, parce que World War Z, c'est au début de l'été. Finalement, il est pas si mal que ça, quoi.
Ouais, voilà. Finalement, entre un World War Z qui a quand même des prétentions de scénario, avec comme une adaptation plus ou moins réussie d'un bouquin, avec un peu de trame, un peu à message derrière, ouais. Et tout. Et Fast and Furious, c'est purement du film.
C'est du film commercial, ouais.
Ouais,
c'est
le film commercial, on a pris sur le champignon.
Il y a des gens qui aiment ça, quoi. Les grosses caisses, les belles voitures.
Ouais, c'est sûr. Les petites TPP qui.
Qui ondulent, ouais.
Après, c'est grosses réalisations, grosses machines américaines, à chaque fois, c'est ça.
Mais ils ont fait 4 millions, quoi. 4 millions en France.
C'est sûr que là, on est vraiment dans l'entertainment pur et dur.
Sans fond, sans but.
Il n'y a pas de profondeur de champ, quoi.
C'est comme le tuning, quoi.
C'est ça.
Après, confession intime, bonsoir.
Après, c'est vrai que nous tous autour de cette table, on aime quand même un certain nombre de catégoriser nanars de série Z, ah, où il n'y a pas forcément de la grande profondeur de champ, c'est sûr.
Mais c'est assumé.
Bon, après, c'est vrai que c'est des films qui coûtent en général beaucoup moins cher que Fast and Furious. D'un point de vue de l'économie, c'est quand même, bon, voilà.
Ça coûte le prix d'une bagnole de Fast and Furious,
ouais, c'est ça.
Je crois que.
Après, par contre, si je continue à descendre ma liste, là, il y a Insaisissable. Alors, vous l'avez vu, moi je l'ai pas vu, ça. C'est sur les magiciens.
Mais franchement, moi.
Qui est sorti quand même assez tard dans l'été, qui est sorti mi-août, je crois.
Ah oui,
c'était
mi-août, ça, ouais.
Ouais, et
le réalisateur, c'était qui déjà Eh bien, c'est le français, là, c'est Louis Le Terrier, non?
C'est Le Terrier, ouais.
C'est Le Terrier. Moi, je l'ai trouvé pas trop mal par rapport à Iron Man, par exemple. Ouais. Bon, après, c'est un film action, un peu...
J'ai vu les effets spéciaux qui étaient quand même super bien léchés.
Ouais. Puis l'histoire est pas trop mal, quoi. Bons acteurs, bon, après, ils ressortent tout le temps. Il y a Morgan Freeman, les bons vieux de la vieille, quoi.
Freeman, c'est devenu le spécialiste des caméos dans les films. Ouais. Il arrive, il fait juste...
Moi, je trouve que ça ressemble un peu à Wanted, là. Je sais pas si vous l'avez vu, avec les tueurs, tout ça.
Ouais.
Pas dans le même milieu, mais après, bon, je trouve que c'est... Le scénario est pas trop mal et c'est pas mal filmé, mais ça casse pas les briques, c'est pas le film.
Mais regarde, tu vois, juste à peine 2-3 semaines d'exploitation, il a quand même fait presque 2,5 millions. Donc
c'est pas mal.
Il remonte pas mal. Par contre, là, on va arriver au nœud de la Discord, Xav, c'est Man of Steel. Alors là, grosse déception, je crois, et des fans et de tout le monde, quoi.
Ouais, mais les fans de Superman, ils sont jamais contents, tout ça, parce qu'il met pas le slip
sur le collant.
Ouais, comme on l'a dit. Mais moi, je le trouvais très bien, ce film.
Il a pas mis le slip sur le collant?
Non.
Ah, j'ai bien fait de pas aller le voir, alors.
Non, il a rencontré Chuck Norris juste avant, à Paris avec lui. Et non, moi j'ai trouvé très sympa ce film. Je sais pas ce que les gens. C'est un gros blockbuster. Le scénar, on le connaît, Superman, truc.
Ouais, non, c'était un scénar original.
Moi j'aime bien un peu les flashbacks, comment ça a été fait, comment c'est réalisé. Les séquences d'action, elles envoient, elles poutrent bien, je trouve. Ouais. C'est super bien réalisé.
Ouais, ce que j'ai lu, c'était le mieux fait du film.
Ben ouais. Disons que, point de vue super-héros, dans Avengers, on est arrivé déjà à un certain niveau, je trouve, de réalisation et tout. Bien pour les fans, quoi.
Ouais.
Les combos entre les super-héros, tout ça. Et je trouvais que Man of Steel, quoi, justement, Superman, déjà quand il se latte, ça envoie, c'est bien fait.
Mais alors, moi, je vais tempérer tout ça. Les chiffres, donc Man of Steel est sorti par contre au début de l'été, à peine, on peut dire 2 300 000.
Donc, il a fait deux fois moins qu'Iron Man,
c'est
son reboot, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Donc, c'est ça. Pourtant, d'accord. C'était le renouveau de la franchise. Voilà, donc c'est quand même, je pense, une grosse déception, même si les studios, ils s'appuient pas que sur le public français pour faire leurs chiffres, évidemment.
Ouais, forcément, hein.
Voilà, parce que je rappelle, on parle du box office français de cet été. Après, on continue donc Wolverine. Alors là, grosse déception, moi. Moi, je l'ai vu. C'est un personnage qui est quand même super emblématique de la saga Marvel.
Ouais, ça, c'est clair. Ouais.
C'est peut-être le personnage. Et là, on arrive sur une espèce de film plutôt action thriller avec des caches, voilà. Une baston finale qui est tout simplement pathétique, avec un méca super joli, mais ça sert à rien, enfin c'est complètement pourri. Ça se passe dans une espèce de hangar cylindrique en hauteur, il tombe, il chute, ouais, bon, ok, rien de neuf, quoi.
Moi, je veux juste te dire un truc, quand on voit Wolverine, on s'attend à ce que ça découpe, quoi.
C'est
et
ça.
Puis là, c'est plutôt un Wolverine, bon, il parle beaucoup trop.
Il parle beaucoup, histoire d'amour, alors que
voilà,
bon,
ouais.
En même temps, bon, ça fait partie de la saga Marvel des comics, ça, l'histoire d'amour la japonaise. On tombe vraiment sur au lieu d'avoir un film de super-héros que tout le monde attendait, je pense on tombe sur un espèce de thriller actionneur, quoi. Donc
après les griffes, je sais pas s'il les sort trop d'un
film. Il les sort plus trop puisque déjà il n'a plus son pouvoir de régénération.
Ah bon?
Ouais, à la fin il se le fait enlever par une espèce de méchante qui s'appelle je sais plus la vipère, c'est ça, super.
D'accord.
Donc des méchants pas charismatiques pour un sou.
Ouais.
Voilà. Et par contre le truc qui est pas mal, c'est il y a une scène sur le métro
sur un train
qui ça celle-là quand même elle vaut son pesant cacahuète, ça envoie bien une bonne une bonne série là de 5-6 minutes où vraiment.
Les critiques, ils ont parlé essentiellement de cette scène. Une fois que tu l'as vu, ça dure 5 minutes.
Sur le train du métro.
Voilà, hein. Non, sur un train à très grande vitesse, tu sais, japonais. Et ils se fightent avec des gars et voilà, c'est vraiment pas mal foutu quoi.
Ça revient à la bonne sur notre truc parce que c'est quand même les scènes de train dans la filmographie ancestrale. Il y avait un film avec Steve McQueen qui se passait à Chicago. Il finit à un moment donné, il est sur le toit d'un métro ou d'un train. C'est pas Bullitt, c'est beaucoup plus récent. C'est le dernier film de Steve McQueen avant qu'il casse sa pipe dans les années 70. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce film. À un moment donné, on voit des bagnoles sortir des deux towers qui avec des parkings à Chicago là.
Oui, d'accord. Ouais, je vois ce que
c'est.
Tu
vois le film là. Après, il y a eu à cette époque-là, t'avais la scène d'Un père sur la ville avec Belmondo dans le métro parisien, souterrain aérien aussi. Et t'avais une autre scène dans le dernier James Bond sur un train aussi.
Oui. Mais c'est au début, non?
C'est au début,
c'est
au début.
C'est dernier, là, quand il
c'est,
la jeune,
c'est
là.
Dans l'intro, exact, c'est dans exact, l'intro, exact. Où il prend la bastos, ouais, et là, après, il y a Skyfall avec Adele,
exact.
Un truc super générique, délirant.
Ouais, c'est vrai.
Il y a Wanted aussi, que je parlais tout à l'heure, il y a une scène aussi sur.
Une scène de train?
Ouais, mais ça fait partie des classiques.
C'est des classiques, ouais. Il y avait un film de Steven Seagal aussi, je me rappelle. Non, mais c'est vrai.
Ah, mais lui, il est passé du train jusqu'en bas.
Steven Seagal, il a fait tous les moyens de locomotion possibles, je crois. Les voitures, les trains, les avions, les bateaux.
Il était pas cuisinier dans ce film?
C'est possible. Il faisait des sushis avec des gros.
Il faisait des sushis tout en fightant des gars.
Ouais, des couteaux japonais.
C'est Steven Seagal.
Non, mais ça c'était pour la digression, mais vous connaissez mon goût pour la digression.
C'est exact. Ben écoutez, donc Wolverine. Après, moi je continue ma liste. On est sur Very Bad Trip 3. Donc pareil, le 1 était une bonne surprise. Déjà au 2, ça sent le réchauffer. Le 3, moi je l'ai même pas vu. Ça m'intéressait pas du tout d'aller le voir.
Si c'est pas réalisé par Woody Allen, j'y vais pas en fait.
Bon, mais non, alors c'est mort. Donc les autres films que je vais te citer, c'est mort aussi quoi. Donc après, Very Bad Trip, on est à 1,9 million. Ouais. Et après, dans les mêmes ordres d'idées, encore deux films pour enfants. Donc Monstre Academy et Les Schtroumpfs.
Ouais.
Qui sont à 2,8 millions, 1,7 millions respectivement.
Ouais.
Voilà, donc ça c'était le box-office de l'été. Moi je rajoute un film qui était pas là, que j'ai vu, que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est Elysium. Elysium, donc avec Matt Damon, c'est de la science-fiction, on va dire, sur... comment dire, l'histoire est assez classique, assez banale, c'est-à-dire il y a les riches en haut dans une espèce de planète qui s'appelle, enfin une planète artificielle qui s'appelle Elysium, les pauvres en bas sur la Terre qui vivent comme des pauvres, c'est-à-dire voilà. Des trucs intéressants au niveau politique, je pense, on voit que toute la Californie en fait est devenue complètement hispanique.
D'accord.
Donc voilà, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, on peut le dire, les Mexicains qui remontent en Californie pour vivre mieux par rapport à ce qu'ils vivent au Mexique, surtout en ce moment avec les trois.
Ouais, les ouragans qui se sont pris sur la tête.
Ouais, voilà. Et après il y a des trucs intéressants. Il y a Jodie Foster qui est en dame blanche, toute glaciale, toute glacée, qui fait la méchante quoi. Et ça va pas mal. Même si je pense que ça aurait pu être un peu plus poussé, un peu plus fouillé.
Ouais.
Mais bon, ça reste un bon divertissement de SF avec un thème classique mais sympa quoi.
C'est le mec qui a fait District 9 là.
C'est ça.
C'est bien ça.
C'est le
Neil Blomkamp là. C'est ça. Fait ça. Donc déjà toujours un peu politique derrière.
Après comme tu te fais, District 9 c'était de la bonne surprise.
Ouais.
Là on voit qu'il s'est un peu endormi sur ce qu'il avait fait sur District 9.
C'est le deuxième film.
C'est le deuxième film, ouais, voilà.
Bah faudra voir le troisième.
Voilà. C'est ça.
Parce que j'ai des potes qui sont allés le voir, Elysium, qui ont pas aimé, qui ont trouvé ça pas terrible.
Ouais.
Bon, moi je l'ai raté. J'avais prévu d'aller le voir, finalement j'ai pas pu. Donc ça c'est couillon parce que j'avais envie de le voir. Et voilà, donc bon, après, pour le troisième.
Moi, je te le conseille quand même. Ouais. Vois-le avec un œil. Bon, après, il y a des trucs qui sont rédhibitoires. Le méchant, enfin, donc t'as Jodie Foster qui est la boss politique, et après, t'as un mec qui joue le méchant. Il est vraiment caricatural à l'extrême, quoi. Voilà. Dommage. Avec des têtes forcées, là, comme ça, voilà.
C'est dommage parce que District 9 était quand même un super bon film.
C'est vrai.
Très très bon, quoi.
C'est vrai. Ouais. Traité de l'apartheid avec des aliens.
Ah ouais, non, mais ça, c'est fantastique. Ouais, j'ai passé un moment de cinéma extraordinaire.
C'est
quoi.
Super bien réalisé.
Et d'ailleurs, en parlant de moments de cinéma extraordinaire, on va finir, je pense, cette partie blockbuster américain avec un film qu'on a tous vu. Et je crois, enfin, je pense que c'est le film le plus drôle de cet été, c'est Pacific Rim.
Ouais.
Alors Pacific Rim, moi je m'en faisais une joie, je me disais ouais super, ça va être intéressant, Guillermo del Toro à la réalisation, avec des mechas, des kaijus, donc on cherchait le nom des bestioles Voilà, des kaijus, et on tombe sur un film, je crois que j'ai jamais vu ça. Alors, les effets spéciaux, les scènes d'action, oui, 100%, 200%. Les acteurs, le scénar, le jeu d'acteur, mais c'est risible. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi,
c'est ciblé. On dirait que c'était vraiment ciblé pour les moins de 10 ans, élevés à la sauce de Goldorak comme nous, quoi.
Mais bon, mais on a grandi, quoi.
Bizarre, hein.
Ouais, mais voilà.
À Marseille, on dirait que c'est des acteurs, des acteurs en plâtre.
C'est ça. Ah,
ouais.
Non, mais c'était. Enfin, je me rappelle, on était ensemble, Mathieu, pour voir ce film. Mais c'est des barres de rigolade, mais tout temps, alors que c'est pas du tout prévu pour.
Non, c'est pas prévu pour rigoler, en fait. Ça se veut quand même assez sérieux.
Très sérieux,
c'est une problématique. Oulala, il y a des aliens qui sortent d'un trou dans l'océan, une porte interdimensionnelle. C'est chaud, on va tous mourir, ils vont tout détruire.
C'est ça. Et on tombe sur des répliques à deux balles. Enfin,
Même Godzilla a plus de fond, quoi.
On avait vu la VF quand même, non?
Ouais.
Alors ça aide vraiment pas du tout. Hein.
Ouais, mais bon, je pense que même en VO, c'est pas parce que tu changes la voix que tu vois les acteurs qui jouent là, c'est pas possible, quoi.
Remarque, c'est vrai que.
Après, ils ont essayé de faire un casting international pour toucher tous les publics. Alors, je sais que Pacific Rim a cartonné au Japon, on en parlait comme Wolverine aussi, d'ailleurs.
Ouais,
mais forcément. Ouais. Mais, moi, j'ai été déçu d'une déception déceptionnante.
J'étais déçu aussi. Après que ça cartonne au Japon, c'est compréhensible parce que la culture du méca, le Japon, c'est quand même le seul bled où, lors de Foire Expo et tout ça, t'as des mécas de 15 mètres de haut qui sont construits.
Des Gundam, là.
Voilà, qui sont construits juste pour la Foire Expo, donc c'est quand même assez extraordinaire comme pays, puisque ça fait vraiment partie de leur culture contemporaine. Donc on comprend que ça a fait beaucoup référence à cette culture-là aussi.
Les mécas et les monstres aussi, les monstres,
voilà.
Là, on a
un croisement entre comment ça s'appelait cette série des années 90 là. La série avec des gros mécas qui se fritaient à des extraterrestres.
Goldorak.
Plus récent.
Un anime ou un.
Ouais, un animé, ouais. Macross. Ce truc les porte-avions, les machines. Donc effectivement t'as du Goldorak aussi, t'as du Macross et t'as des super Godzilla.
Ouais, avec des classes de niveau tout ça. Mais ce que je disais tout à l'heure, a priori, on peut dire que tout ce qui est mais donc les mechas, les monstres, tout ça, c'est super bien fait.
On a vu
un réalisateur qui arrive à faire bouger des robots énormes, pas comme Transformers où c'est lisible, on voit ce qu'ils font, on comprend ce qu'ils font. Je suis désolé, dans Transformers, tu vois les trucs bouger, t'es là, ouais. Elle est où la tête et elle est où le la queue, quoi.
Oui.
On voit pas du tout ce que c'est. Là, c'est quand même bien filmé. Les scènes de baston dans la flotte, c'est
magnifique.
C'est magnifique. Mais malheureusement, à mon avis, ça sauve pas du tout le film.
Non, ça sauve pas le film. C'est ça qui est problématique, c'est que typiquement, ça peut être un film qui peut devenir d'ici quelques années pas forcément culte, mais une référence pour certains trucs.
Ouais.
Mais il va falloir faire abstraction de la pauvreté des dialogues, de l'interprétation. Et certains raccourcis du scénario peut-être.
Il y aura peut-être une version longue avec l'histoire dedans. 3 minutes de plus, c'est l'histoire dedans.
Un bonus sur le DVD.
Avec des nouveaux acteurs aussi remasterisés.
Mais c'est vraiment dommage parce que c'est pareil, il y a des trucs super clichés. Bon, effectivement, ça se veut très ouvert. Il y a une asiatique, karaté.
Pour une fois, c'est pas les États-Unis qui vont sauver le monde puisque.
Non, c'est un peu tout le monde. Il y a des Allemands aussi, non?
Il y a des Allemands, il y a des Russes parce qu'il y a plusieurs mécas différents. D'ailleurs, on n'en voit qu'un, a priori, alors qu'il y en avait 7 ou 8 disposition.
Voilà, c'est ça.
C'est vachement centré sur eux, c'est dommage.
Là,
on voit les derniers parce qu'ils sont tous plus ou moins réformés. Donc, c'est ceux qui sont encore en activité qui reviennent. Après, il y a un truc qui est assez surprenant aussi. Pourquoi avoir choisi le nom des robots, avoir mis chasseur en allemand? Bon, c'est des trucs, ça fait un peu. Je sais pas, c'est assez intéressant aussi parce que ça mixe vraiment plein d'influences. Ça fait appel à plein de choses. Je sais pas dans quel ESF on peut avoir dans Jinro, c'était cette espèce de rapport à l'Allemagne un peu comme si l'Allemagne avait gagné la troisième guerre.
Dans un manga quand même assez célèbre, c'est Gum. Il y a un art martial martien, très dur à dire. Et donc les protagonistes qui utilisent cette arme, on les appelle les Künstler, c'est-à-dire les artistes en allemand.
D'accord.
Et il y a quasiment tous les coups sont décrits en allemand aussi.
D'accord, ok.
Voilà.
Bon, il y avait des choses intéressantes, et c'est pour ça que je pense qu'on est tous frustrés, c'est que ça aurait dû tout péter.
Ouais.
C'est vraiment, tu vois, la scène d'intro.
Ouais.
Si tout le film avait été du niveau de la scène d'intro, c'était une tuerie fantastique.
Mais malheureusement, les acteurs rentrent en piste après cette scène.
Voilà, c'est ça.
parce que voilà, c'est dès qu'il commence à on est dans le vrai film avec des acteurs qui jouent.
Ouais.
Parce qu'il y a une voix off dans le dans l'intro.
Ouais. Et surtout que bon, apparemment il avait carte blanche pour faire ce film. Ouais. C'était son petit joujou et puis bon, c'est vrai que quand on le connaît, le réalisateur Guillermo.
Labyrinthe de Pan.
Donc on s'attend un peu plus de profondeur malgré qu'on s'attendait quand même que ce soit bien basé sur l'action.
Ouais, ouais, ça, tout
c'est
à fait.
Sûr, c'est sûr.
Mais moi, enfin, c'est pas forcément ce que je préfère, mais un film grand spectacle comme ça qui éclate partout, moi ça me dérange pas. Du moment qu'il y a quelque chose derrière qui permet de justifier ça. Et là justement, on l'a pas. Parce que on est sur un timbre poste de scénar là.
Ah ben là, ouais, il s'est amusé quoi. Il a fait son petit jouet, il s'est amusé, je pense.
Mais je crois qu'il s'est plus amusé sur les SFX que sur le reste.
Ouais, voilà, c'est, ça, ouais. C'est vrai que j'avais oublié que c'était lui qui avait fait Labyrinthe de Pan.
Ouais.
Labyrinthe de Pan, c'est chiant.
On a du spectacle, mais on a un scénar à plusieurs étages, plusieurs couches.
On a des vrais acteurs avec de la vraie direction d'acteurs là. Comment il s'appelle celui qui joue dans les films français, l'espagnol qui fait le franquiste dans Labyrinthe de Pan.
Ah, je sais plus.
Sergi Lopez.
Ah oui, Sergi Lopez.
Sergi Lopez.
Qui
fait le pire salaud.
Bah, il est bon dans les salauds.
Mais il le fait bien. Ouais. Ah ouais, ça il est bien au scénario.
Henry, ouais.
Non, mais il le fait bien. C'est, tu vois bien que là, il y a du scénario. Il est dirigé. Non, par Guillermo del Toro. C'est vraiment super bien. Et là, sur Pacific Rim, ça pourrait être n'importe quel, entre guillemets,
Michael Bay.
Ouais, voilà. Ouais. Michael Bay ou Pimpin de commande d'Hollywood.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, qui te fait.
Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Ça fait un mix entre Armageddon et les Transformers.
Ouais, mais
on n'arrive pas sur un truc qui permet de voyager, quoi.
Parce qu'on est tous les trois amateurs de Guillermo del Toro. Et c'est pour ça, justement, qu'on est un peu déçus, je pense, tous les trois de.
Ouais, tout à fait. Bon, ok. Mais écoute, on va finir cette. Donc, moi, je résumerai ça. Vous m'en dites ce que vous voulez. Moi, c'est grosse déception cet été. J'ai pas trouvé un seul film qui valait vraiment la peine. Enfin, je pars dans les blockbusters, les grosses machineries.
J'ai pas vu The Conjuring, par contre.
Ouais, les dossiers Warren, exactement.
Apparemment, ça serait pas trop mal, quoi.
D'accord.
Il y a eu The Purge aussi. Enfin, American Nightmare. Le sujet a l'air intéressant, mais après, je crois qu'il est super maltraité.
Ouais.
Je sais pas si vous avez vu ce que c'est, ça.
Non.
C'est, donc, on est en futur proche, 2050, 2060.
Ah, oui.
Et t'as 12 heures sur l'année où tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, n'importe quoi.
D'accord.
Même le meurtre est autorisé. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une critique de la société américaine. On vient encore de le voir avec leurs attentats, leurs machins, les armes. Donc ça se retrouve sur un mec, donc Ethan Hawke, qui est responsable de sécurité, qui s'occupe de mettre la sécurité sur des bagnoles et qui se fait un home invasion chez lui avec sa femme par des méchants. Et donc forcément, vous imaginez, donc home invasion, et puis ça se retourne et tu vois qu'en fait les gentils sont pas si gentils, les méchants sont pas si méchants. Voilà, les home invasion, ça revient aussi. Pas mal,
Your Next, il y a aussi apparemment un peu dans le style.
Moi, je reviens donc sur les blogs de cet été parce qu'on va passer autre chose après. On va s'écouter 2-3 morceaux qui vont être un peu en référence avec ça, peut-être le générique de fin d'Iron Man qui est le seul truc valable. Et les blockbusters, déception pour ma part, je pense que vous aussi. Voilà, donc on attend la suite, maintenant les blockbusters de Noël, ça va être sympa et on pourra en reparler.
Ouais, mais à Harry Potter, non?
Non, je crois pas.
Santa Claus contre Godzilla.
Et non, c'est pas encore qu'il y a le nouveau Star Wars.
Non.
C'est en 2017.
Oh mon dieu, ça existe ça.
Et non, par contre, il y aura la suite du Hobbit.
Ouais, voilà, c'est la désolation de Smog qui va.
Mais j'ai pas vu le premier, moi.
T'as le temps de le voir en vidéo. Ouais, on va essayer de voir. Bon, écoutez, on finit ce truc blockbuster, on écoute 2-3 morceaux et on revient parler d'autres choses. Allez, à de suite.
Ciao.
Yeah. Il est temps pour toi de voir l'univers.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Il y a plus de 6 milliards d'hommes sur notre planète. Génétiquement, nous sommes pratiquement tous identiques. Pourtant, il arrive parfois qu'une mutation se produise. Ces personnes-là ne sont pas ordinaires.
Fils d'une machine à rythme, puis d'une mine à banger. Je suis à la de la rime, inspiré de The Avenger. Fils d'un tas d'inutiles, brise leur crâne maudite. Les DJ qui minent des mythes tellement nasses et comiques. Menace l'industrie, précise, piétine les strass. Force cosmique, pure style, vient de l'espace. Réussite, surprise, fils qui détruit les stades. Rapide comme les petits bolides qui remplissent en Espagne. Original distributeur de galactiques gifles. Appelle-moi l'abattoir, laisse aucun espoir à tes pistes. Assis sur la cime d'un building qui brille la ville. Exorcise ton baladeur, des merdas qui l'habitent. Mythique, mystique, pile, tous ces kings de la zone. Ces types qui nous haïssent, ces disques, l'œil de la donne. Écrive au HB, lyrique, c'est le beat de l'album. J'arrive, fais mon job, ma team, passe la gomme. Attaque avec basse massive comme Sly et Robbie. Ils ont des doutes sur leur propre nature comme David Bowie. La pop tremble sur ses bases quand on chie la copie. Nous les vilains les plus super de la catégorie. Forgés dans l'enfer des tripes, rue d'un quartier pourri. Snatch l'underground au velvet, tarte à nourrir. Terrestre extra quand je rappe, c'est comme ça qu'on m'appelle. Chez Def Jam certes, mais en licence à vie chez Marvel.
Les mutants ne sont pas de simples personnages de fiction. Ils sont parmi nous, ils existent vraiment. C'est irréel. Par essence, leur technique fait d'eux des super humains.
Marvel, c'est pas humain, moitié homme, moitié fantasme. Je vois les ions et les atomes. Ma rage augmente le pouvoir de ma vie. Marvel, c'est pas humain,
j'augmente mon énergie. Sur un ramassis de MC.
On ne sent jamais venir, je me déplace contre le vent.
Les yeux en passent la ville où je m'apprête à plonger. Traquer l'insipide dans des lieux où traînent ceux que le temps a rongé. Mes proches sont des griffes, colossales gifles. Dès que l'encre gicle, plus froid que le givre. Moi je viens désosser, vivre comme une pensée. Je pose comme j'ai ventre, féliner ma danse. Mortelles sont les pages, plus qu'un champ d'énergie. Style intergalactique, fils d'une pied apathique. Tout comme Thanos, moi je viens piétiner des nano-MC. L'odorat me guide, mon instinct me parle et ma fureur me pousse. Leur variété coule, tous crouent sous le poids de mes gueules. Moi je suis pas Kirikou, leur guerre je les mènerai toutes. Et jusqu'au bout, faudra qu'ils tracent pour garder leur coup. Serval, adamantium technologie, un quart homme, trois quarts animal. Bestial et corps marine, sanglant sur les ondes. Je lâche grave de rafale sonique, un vrai mutant mic. Une exception génétique. Regard impassible, droit sur la cime des buildings. Je plonge dans le tas et Dieu épargnera les buildings. Aguerri au combat, ouvert à mille soleils de puissance. Tout s'agit en bas, las, tout s'embrasse d'indécence. Marvel, héros-trip, extra, dur et ma team. Assassin, scribe, extra, pur sur mes lignes. Ma rage booste mes sens, extra, brut sur mes mots. Au fond de la nuit, dis leur ce qui brille, c'est pas mes yeux, c'est mes crocs.
Les mutants sont dotés de capacités de rime et de flow largement supérieures à celles de tous les autres êtres humains. Préparez-vous à les rencontrer.
Marvel, c'est pas humain. Je suis Galactus, viens pour dévorer ton planète rare.
On vient de la planète rouge, héros-trip. Rap ultra-violet pour une vie sans.
Marvel, c'est pas humain.
Un soleil noir, je crée une sombre énergie.
Sidéral, knockout, intergalactique.
C'est la puissance pure à son paroxysme.
Héros-trip. Héros-trip. Héros-trip.
this stupid shit, man, I hate it. Bitches lying, bitches crying, suicidal, getting lined. Getting mine, bouncing freaks, losing sleep, counting sheep. Absolute cash and loot, man in black, packing heat. Born and blazing, rotten, raising fingers up. Time to wave them, show these players playing that they better get their ass to praying. They won't be nothing but dice after the cutting. I'm cutting them like a fish, they gonna wish they never push my button. The door is shutting and a knock, but do you no good? You're getting nothing while I rock here in Hollywood. I'll tell you something else, you can take it to the bank. I don't give a fuck what none of y'all think. Plus you turns down the drain, down the hatch, throwing crap, throwing matches on the gas. Check the match, check the wheels, check the ride, pay the bills. Burning miles, want a smile if you're feeling versatile. Versus wild, flipping bitches, grinding trucks, skating digits, hating, wrong, but hardly hating, knifing, slicing shit like bacon. Sick and tired, you was fired, I'm the truth, you used to lie. The door is shutting and I'm not gonna do you no good. You're getting nothing while I rock here in Hollywood. I'll tell you something else, you can take it to the bank. I don't give a fuck what none of y'all people think.
Émission décalée sur Gascogne FM 107.3 MHz.
Voilà, donc on s'est écouté ces 2-3 morceaux dans le Iron Man de NoFX. Et on va continuer un peu dans le cinéma, mais alors on va passer complètement à autre chose. Donc on va passer à Jimmy P, je crois. Mathieu, tu as vu ça? T'aimerais bien nous en parler?
Ouais, voilà, j'ai vu Jimmy P, sous-titré Psychothérapie d'un Indien des Plaines. Alors c'est le moment France Culture Télérama. Là.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. C'est ça. Donc en fait c'est un film d'Arnaud Desplechin.
Ouais.
C'est plutôt catégorisé cinéma d'auteur. Là, c'est un film qui était en compétition à Cannes cette année, qui est sorti en septembre. Et donc Desplechin qui a fait des choses que j'avais jamais vues jusqu'à maintenant. Mais j'y suis allé surtout voir ce film parce qu'il y avait aussi Benicio del Toro.
Ouais.
Ça m'intriguait.
Ouais.
Benicio del Toro, que même s'il a fait des choses un peu plus art et essai ou cinéma d'auteur, a quand même fait un grand nombre, a participé à un grand nombre de films que nous aimons bien, comme ouais. Usual Suspect, Las Vegas Parano,
oui, Docteur Gonzo,
monstrueux avec Johnny Depp, Sin City où c'est quand même ça arrache bien,
ouais.
Snatch, 21 grammes que j'avais pas vu,
ouais, 21 grammes, ouais,
voilà,
très bien, ce film,
et ouais. Way of the Gun qui est pas vraiment un de ses films les plus connus, mais
ah, oui.
que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé.
Ça charpille aussi. Là.
Ah, ça grave, ça. Ouais. C'est comme je disais tout à l'heure à Nico dans l'émission, c'est le réalisateur extermine toute la distribution.
C'est ça.
Un peu comme les vieux Schwarzy de l'époque, mais c'est quand même un peu plus, c'est quand même un peu plus fouillé.
Et ouais. Il recharge jamais le flingue comme d'habitude.
C'est
ouais,
ça.
C'est ça.
Mais pourquoi il y a les chargeurs de
mini flingues de mitraillette.
Ouais, c'est ça. Ils sont sponsorisés un peu par, je sais pas, la NRA, sûrement, parce qu'on voit.
Charlton Heston, si tu nous écoutes.
C'est ça, voilà. Et on les voit à peu près utilisés dans le film. À peu près tout ce qui se faisait à l'époque comme arme de poing et automatique et semi-automatique, c'est assez impressionnant. Bref, bon, Benicio del Toro.
Donc tu étais plutôt été attiré par ce film par l'acteur, on va dire.
Mais j'étais intrigué parce que j'avais vaguement vu le sous-titre, je me demandais ce que c'était un peu. Bon, on voit l'affiche, on a deux mecs en costard en train de discuter, Amalric est tout petit.
Très
à côté,
sobre l'affiche, ouais.
Voilà, très sobre avec Benicio del Toro qui à côté, il fait énorme, quoi. Donc voilà, film.
Alors le pitch, c'est quoi le pitch de...
Alors le pitch, c'est on est en 1948.
D'accord.
En plein cœur des États-Unis, dans la zone des plaines. Oui. Donc vous imaginez. Oui. Donc Jimmy P, c'est un mec qui s'appelle Jimmy Picard. Mm-hmm. Un nom français, mais c'est un Indien. C'est un Amérindien en fait qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Il a servi en France à la libération.
Ouais.
Il est arrivé en fait après le débarquement, donc il n'a pas vraiment combattu, mais il a quand même eu un accident pendant qu'il était militaire. Bon, je vais pas vous spoiler l'accident, mais il a un accident. Il a un choc à la tête très violent et depuis, donc pendant 3 ans, il a des hallucinations visuelles, il voit des espèces de paillettes, il a des bourdonnements, il tombe à moitié dans les pommes, il a des douleurs atroces dans la tête.
Ok, donc des grosses séquelles de son service.
Très très, très très grosses séquelles, des tremblements, en plus il picole un peu, bon, enfin ça aide pas. Et il est chez sa sœur, ouais, il a plus de parents, il n'a plus de famille, sa sœur tient un ranch en plein cœur des plaines, donc ouais. c'est assez intéressant comme pitch, quoi. Et ils décident d'aller. Enfin, on les envoie plutôt. L'armée les envoie dans un grand hôpital pour savoir un peu ce qu'il a. Bon, donc t'as Benicio del Toro qui a vraiment pas l'air en forme à ce moment-là. Tu vois, vraiment,
Le
personnage, il est vraiment mal et tout. Donc ils lui font faire toute une batterie d'examens. Alors ils savent pas s'il est, il a rien physiologiquement. Ils savent pas s'il est schizophrène. Donc ils se posent des questions. Et là il y a le directeur du centre qui apparemment est un mec assez connu de ces institutions-là. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui appelle donc un certain Georges Devereux qui est un psychanalyste ethnologue. On dit anthropologue dans le film parce qu'à l'époque c'était les anthropologues, c'était les ethnologues. Il y a quand même une légère différence. À l'époque, il mesurait encore la tête des gens.
Ouais. 48.
C'était 48, c'est pas très longtemps quand même après les années 30 et la Seconde Guerre mondiale. C'est que l'anthropologie, ça fait beaucoup de ravages en Europe.
C'est ça.
Il l'appelle à New York à ce moment-là. Donc, ce fameux Georges Devereux, anthropologue et fauché, a besoin de bosser. Donc, il voit la perche qu'on lui tend. On lui dit, voilà, on a un patient qui est très curieux. On aimerait bien que tu jettes un œil dessus. Parce qu'on ne sait pas s'il est schizophrène ou si c'est autre chose. Et comme à ce moment-là,
est-ce qu'il y a aussi une idée qu'il fait semblant? Enfin, j'ai pas vu le film. Est-ce qu'il y a aussi sous-entendu l'idée que l'administration militaire veut prouver qu'il fait semblant pour justement rien lui filer? Parce que c'est ça
Alors,
le but.
C'est pas à charge. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est que c'était pas à charge. C'est-à-dire, il voulait pas vraiment prouver qu'il simulait.
D'accord.
Mais par contre, on a plutôt l'impression que ça les intrigue parce que ils comprennent pas. Il y a tout un tas de scientifiques et militaires. C'est-à-dire des militaires, des docteurs, des médecins, des psychanalystes.
Il y a
des psychiatres. Bon, ils sont tous là. Et à un moment donné, on voit une petite réunion. Ils confrontent leurs opinions. Ils sont pas d'accord.
Ouais.
Ils arrivent pas à trancher. Il y en a un qui dit, oh, il est schizophrène. Et un autre mec qui dit, bah non, il peut pas être schizophrène parce que, ou alors il a pas répondu à tel test, tout ça. Et donc, il y en a un qui dit, bah, grosso modo, je vais appeler mon pote.
Ouais, d'accord.
C'est pas comme ça, mais bon.
Ouais.
Donc, l'autre, il se radine en plein cœur des États-Unis. Bon, on voit bien que c'est à Pétahouchnok, hein. C'est vraiment au milieu,
oui,
quoi.
C'est
la pampa.
Tu vas chez le voisin, oui, c'est 200 km tout droit.
Ouais, c'est un peu ça. Et donc, en fait, il commence à comment dire, à
sympathiser avec le patient.
À sympathiser un peu, il lui fait d'abord passer quelques tests, il le fait dessiner, tout ça pour arriver à accumuler des preuves, comme quoi il n'est pas schizophrène. Et qu'en fait, il va plutôt essayer de, ce qui était vraiment en pleine expansion à ce moment-là, de lui faire une thérapie mais psychanalytique.
Ah oui.
Donc vraiment par l'utilisation plutôt des méthodes de Freud avec la parole, voilà, les rêves, essayer de débusquer entre guillemets les névroses, machin et tout. Bon, et ça part un peu comme ça, alors que culturellement, si tu veux, c'est quand même il y a quand même un gros grand écart puisque d'un côté on a un intellectuel européen,
ouais.
À la fois anthropologue et à la fois très intéressé par la psychanalyse.
Ouais.
Et en face, on a un Indien des plaines qui est à cheval entre sa propre culture, c'est-à-dire la culture des Blackfoot, Et donc avec tout le côté les anciens, les méthodes, enfin la structure de la société,
ouais, l'importance des rêves,
peut-être une critique un peu du coup des Américains par rapport aux Amérindiens, enfin
voilà,
l'assimilation des Amérindiens.
Dans le fond, voilà, on peut voilà trouver ça qu'ils vont chercher cet Européen parce que ils sont ils vivent avec eux mais ils ne les comprennent pas. Et
alors il y a un peu de ça quand même, parce que on sent vraiment qu'ils sont désemparés. On voit à un moment donné le psychiatre, il fait faire une espèce de test, c'est pas un Rorschach, mais il fait voir une image à Benicio del Toro. Benicio del Toro ne parle pas du tout de l'image, il parle d'autre chose. En fait, le personnage donc joué par Benicio del Toro parle d'autre chose. Il parle d'un rêve qu'il fait. Et le mec en face, il comprend rien. Il est là et c'est complètement en dehors de sa grille de lecture.
Ouais, c'est-à-dire qu'il est en face de lui. Il est complètement surpris. Voilà, il sait plus où il est.
Il sait plus parce qu'en face de lui, il a en fait un Amérindien. On voit bien que même s'ils habitent sur le même territoire, il y a vraiment une coupure. Alors on voit que les Amérindiens n'ont pas le droit d'acheter d'alcool, s'ils boivent, il faut qu'ils se fassent passer pour des Mexicains, parce que sinon ils n'ont pas le droit de boire. Il faut, pour sortir de la réserve, ils ont besoin d'un permis.
Il y a aussi cette vision-là sur les réserves amérindiennes, même de nos jours, et qu'on peut dire est une honte totale.
Oui, c'est une honte totale. Voilà, ils sont toujours parqués.
Ouais.
Et donc là, on le voit. C'est suggéré. C'est là où Desplechin, il est assez fin, parce que c'est des petits détails. Tu peux ne pas les voir, mais ils sont quand même là. C'est-à-dire que le contrôleur. Alors c'est ça qui est assez intéressant. On en parlait aussi tout à l'heure. Ouais. C'est que on voit qu'il y a une hiérarchisation. C'est que les Indiens, les Amérindiens, ils sont entre guillemets moins que les Blacks, qui sont en pleine ségrégation à cette époque-là.
Oui, oui. Ouais.
Et qui sont déjà eux-mêmes bien sous pression.
Moins que les. Ouais,
et on voit à certains moments, justement, on a l'impression que face donc à l'Amérindien, les Noirs américains, ils sont un peu
supérieurs.
Très légèrement, tu sais, il y a quand même une distance. On lui parle un peu comme si c'était un béné analphabète illettré. À un moment donné, il y a une
sorte de parallèle aussi. Donc tu disais avec le psy qui est anthropologue, et donc comme tu disais tout à l'heure, avec l'anthropologie du régime nazi là, qui essayait de prouver par des mesures et tout ça que les juifs étaient des sous-hommes. Et là donc l'anthropologie au niveau américain, peut-être avec des discussions, qui essaie de prouver que les Amérindiens sont moins que des hommes, quoi.
Pas forcément, mais on voit bien qu'il y a quand même une hiérarchisation sociale qui est en place à ce moment-là. D'accord. On la sent quand même, elle est en trame de fond. Parce que tu as le grand chef de la clinique, bon, c'est une analogie un peu à les Indiens, mais on va dire le chef de la clinique américaine, qui est un super gros truc, c'est une grosse clinique pour entre guillemets gueule cassée, c'est-à-dire tous les traumatisés des bombardements, les mutilés, etc. Donc c'est vraiment une espèce de havre de paix où en fait il les parque dans un hôpital qui est une prison, en fait.
Ils les laissent entre eux, quoi.
Voilà, et ils essaient quand même de les en faire sortir, donc il y a beaucoup de moyens.
Beaucoup de médicaments déjà.
Beaucoup de médicaments aussi, ouais. Parce qu'à un moment donné, il y a une.
À un moment donné, c'était la réponse de tous les psys, on va dire, c'était assommage médicamenteux. Ça existe encore de maintenant, même si c'est en voie de régression, parce qu'ils essaient justement de faire parler les patients, les malades, pour essayer de trouver donc les névroses.
Surtout qu'ils comprennent pas ce qu'ils ont vraiment les patients. Voilà.
Et surtout des traumas de guerre comme ça. Enfin, la Première Guerre mondiale a été assez violente, mais la deuxième, c'est quand même presque le summum de l'horreur, on va dire.
Ouais, les deux, parce que en France, justement, c'est le hasard. Mais il y a trois jours, je regardais sur Internet un site sur les gueules cassées, qui était, il y a eu carrément une association. Il faut savoir que la loterie nationale en France a été créée pour financer les établissements, un établissement en particulier, dans les années 30, les années 20, les années 30, pour financer un établissement qui était destiné à accompagner les gueules cassées jusqu'à la fin de leur vie.
D'accord.
Parce que les gueules cassées.
Les réinsérer aussi.
Bah non.
Non, c'est juste pour les aider, quoi.
Pour les aider ceux qui pouvaient être réinsérés, mais c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que tu te rends compte qu'il y a des avancées, justement les conflits font aussi des avancées dans ce moment-là.
Ça me fait penser, il y avait un film français aussi comme ça, donc justement sur un vétéran de la Première Guerre mondiale.
Ouais.
Je sais pas si vous l'avez vu ce film, je sais plus le titre, si j'avais un truc qui marchait ça serait bien. Où justement tu vois un psy qui accompagne ça s'appelait le soldat, je sais plus quoi. Pareil, un vétéran des tranchées français. Complètement, mais ailleurs, qui se fait aider, donc c'est les débuts de la psychanalyse, par un docteur, je crois, qui est étranger. Tu vois, j'y pensais pas. Et là, le fait que tu me racontes le pitch du film, ça me fait penser à l'analogie avec ce film.
Entre guillemets, le cliché à l'époque, c'est qu'en général, les psychanalystes étaient plutôt autrichiens ou allemands.
Oui.
Puisque Freud était autrichien, c'est.
Oui, il avait développé l'école.
Les écoles venaient plutôt de l'Europe centrale. Et là, c'est marrant parce que là, on est à la deuxième tranche où les psychanalystes traversent l'Atlantique. l'Atlantique.
Ouais.
Et les psychanalystes européens après la guerre, ils commencent à s'occuper un peu de certains cas aux États-Unis.
Ouais.
Voilà. Bon. Et alors attends, je reprends dans l'ordre. Donc cette espèce d'énorme institution avec tous ces gens bienveillants autour des anciens combattants, mais tu sens quand même que c'est un peu il y a un certain décalage quand même parce que je sais pas, tu sens que c'est beaucoup trop formel, c'est une espèce de bienveillance un peu, c'est
mécanique.
Ben pas mécanique, mais tu sais c'est obligé parce qu'ils ont combattu, tu sais, c'est ce côté très
vendu quoi, ils ouais. C'est vendu voilà. Leur doit ça et voilà quoi.
Voilà donc
ils mettent pas leur humanité.
On voit qu'il y en a, mais bon, c'est-à-dire ils sont pas en prison, c'est pas des matons, mais il y a quand même. Tu vois que c'est quand même très structuré, c'est très militaire en fait.
Ben oui, en même temps, oui, c'est un hôpital militaire.
C'est un hôpital militaire, ouais, c'est un hôpital militaire. Donc après, effectivement, en trame de fond aussi, il y a la pension d'invalidité de Jim Picard, donc, qui passe tous ses examens, donc ça intrigue tout le monde. Et en fait, Georges Devereux, joué par Amalric, commence à avoir des entretiens, c'est-à-dire un échange juste de conversation avec Jim Picard, il lui fait raconter ses rêves. Puis il parle aussi de culture, parce qu'en fait, étant anthropologue, il connaît plusieurs tribus amérindiennes, et ça lui permet de connecter avec Jimmy Picard, parce que les autres Toubib, ils sont vraiment complètement dehors de ça, et pour eux, t'as l'impression que les Indiens, c'est sauvage, c'est indigène, ils y pompent absolument que dalle.
Pour eux,
c'est vraiment une Jimmy Picard, c'est une boîte noire infranchissable.
Ouais, d'accord.
On peut pas rentrer dedans. Et Devereux commence en disant mais c'est quoi ton vrai nom, c'est quoi ton nom indien, il le ramène sur un autre terrain,
ses racines.
Voilà, puis il commence à parler de l'importance des rêves chez les Blackfoot. Voilà, il commence à comparer certaines cultures tu vois indiennes entre les Blackfoot, les Pawnee,
ça lui permet de s'impliquer beaucoup plus quoi.
Voilà,
donc en fait tu c'est un basculement entre un rapport de patient à soignant à un rapport différent. On change de rapport ou on reste quand même dans le c'était tout orienté pour la guérison, on va dire, ou la compréhension.
C'est tout orienté vers la guérison, mais c'est un peu le concept un des concepts de la psychanalyse aussi, c'est-à-dire qu'en fait c'est par les mots, c'est-à-dire quand il est face à un psychiatre qui va lui faire des anxiolytiques,
ouais,
parce qu'il est dans le cirage, donc on voit qu'il a son traitement à table, on le voit à un moment donné prendre ses cachetons,
le
truc à l'américaine avec
le petit gobelet, Volontine
en carton, voilà, exactement. Et à côté de ça. Et
d'ailleurs, il y avait un Indien aussi dans Volotti.
Oui, c'est vrai, ouais.
Et c'est à la même, c'est un nom, c'est 70.
Ouais,
c'est donc c'est un vétéran Vietnam.
C'est le Vietnam, ouais. Mais de toute façon, ça c'est.
On en revient toujours là, t'as vu?
C'est le seul qui s'échappe d'ailleurs, l'Indien,
ouais,
non?
Ouais. Voilà. Mais on en revient toujours à l'Indien dans les instituts psy après les guerres.
Et oui, parce que c'est toujours pareil, c'est on va dire quand même que sur ces guerres-là, c'est souvent,
ils sont mis en première ligne aussi.
Bah oui, t'as l'impérialisme blanc entre guillemets qui va faire la guerre à un endroit ou à un autre impérialisme occidental ou à autre chose. Dans le cas du Vietnam, c'était autre chose. C'était
communisme.
Oui, voilà, communisme, c'est une façon détournée de taper sur les Russes sans avoir l'air.
C'est ça.
Ou les Chinois. Et c'est des gens qu'on va prendre et qu'on va mettre dans ce contexte-là. C'est vrai, c'est quand même extraordinaire. Bon, tu vois envoyer des Amérindiens au Vietnam, envoyer des Amérindiens en France ou en Allemagne, comme on a envoyé des Africains ou des Algériens en 14-18, ou bon voilà, troupes coloniales, etc. Non, c'est quand même un petit peu ça qui est en toile de fond aussi.
Ouais.
Ça fait partie du contexte général, c'est pas vraiment explicité.
Ouais, voilà.
Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que à un moment donné, tu as cette énorme institution militaro-médicale qui tend une perche à Georges Devereux, qui est psychanalyste, en lui disant voilà, on a un client pour toi.
Ouais.
Et en fait, il s'en saisit, parce qu'il a besoin de bosser aussi, il s'en saisit vraiment à bras le corps. On voit quand même que ça l'intéresse aussi sur le fond, parce qu'il a déjà des attaches avec la culture amérindienne.
Ouais.
Et il creuse. Alors après, c'est un psychanalyste avec un seul patient. Donc c'est un peu particulier. Il se voit tous les jours.
Ouais, tous les jours. Ouais.
Une heure par jour. Et encore, il voudrait le voir plus que ça. À un moment donné, il y a le film.
Il y a quelques liens d'amitié aussi qui se créent au fur et à mesure, enfin, forcément, quoi.
Parce qu'en fait, on voit bien que dans le Devereux, alors c'est tiré du livre de Devereux.
Ok. Et d'ailleurs, c'est tiré d'une histoire vraie, tu me disais.
C'est une histoire vraie.
Ah, ouais, voilà.
Devereux a écrit un livre qui est paru en France au début des années 2000.
D'accord.
Voilà. et où on voit bien que qu'en fait il essaie de rentrer le plus loin possible dans dans l'esprit en fait de
les racines dans le passé du mec.
Voilà, et il lui fait démonter tout un tas de trucs. Tout un tas de traumatismes qu'il a vécu dans l'enfance. Bon, je vais pas vous dévoiler tout le film.
Ouais.
Mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est aussi très intéressant parce que ça donne un éclairage aussi sur la méthode de la psychanalyse, tout en sachant quand même que Devereux était un peu à la marge.
Ouais.
C'est-à-dire que bon.
Il avait des méthodes un peu non conformistes.
Des méthodes non conformistes. Et d'ailleurs, à un moment donné dans le film, on voit bien que, il y a le directeur de cette énorme institution militaire et médicale, ouais, qui reçoit un courrier d'Europe de l'association des psychanalystes français et européens qui dit non, mais lui, en fait.
Attention, c'est pas, c'est,
oui, il faut se méfier, c'est un fake.
Voilà, il faut surtout pas bosser avec lui parce que c'est pas un analyste, en fait.
Il suit pas les codes, quoi.
Voilà, il suit pas les codes.
Déjà,
donc,
en marge de ce qu'il fait à l'époque, quoi.
Voilà. Et donc, en fait, dans ce film, toi, personnellement, c'est quoi qui t'a plu? C'est justement cette vision de la psychanalyse, c'est quoi qui t'a plu? Le fait que ce soit une histoire réelle, le contexte
niveau.
Ouais, voilà, le contexte géopolitique,
le contexte de l'époque me plaît beaucoup.
D'accord.
Parce que j'aime bien l'histoire, le fait que ce soit une histoire vraie, je trouve ça super trippant.
Ouais.
Parce que les acteurs sont très, parce que ça on en a pas parlé,
c'est deux très bons acteurs,
mais Amalric, il est très très bon.
Amalric, c'est l'acteur fétiche de Desplechin qui avait déjà fait tourner dans Tournée. Donc,
ouais, voilà, Tournée, ouais.
Ça a été un gros carton de Destine.
2010.
Ouais.
Il peut jouer tout à Amalric, je pense. C'est un peu un caméléon, quoi.
Ouais, voilà.
Parce il a une gueule aussi, quand même.
Ouais,
il a, moi, je trouve. J'ai pas vu le film. Mathieu m'a expliqué un peu avant l'enregistrement, là. Et c'est vrai, il a une tête qui s'adapte vachement à plein de types de rôles différents.
Oui, ben là, il y a des moments, il est toujours fébrile, il est toujours exubérant. Il a une relation amoureuse avec. Une anglaise qui fait très cupincé,
ouais,
qui a l'air quand même aussi, je pense dans le fond elle doit être aussi atteinte que lui, mais elle a ce côté très britannique, elle a un accent parce que là c'était ouais. Elle a un accent très très très
british,
ouais, high society british. Lui il parle français, alors c'est pour ça au début c'est bizarre parce qu'il parle anglais mais pas avec l'accent français.
Et parce que tu l'as vu en VO. Ça doit être peut-être plus sympa, peut-être à conseiller à regarder en VO, peut-être plus qu'en
VO. En VO, absolument.
Ça, Xav, je pense que tous les films on peut dire que c'est quand même
tout le temps
plus sympa de les voir en VO.
Quand c'est vraiment des films d'acteurs, d'auteurs,
c'est quand même mieux,
je pense, de regarder en VO.
Ouais, t'as raison.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois Amalric qui parle anglais avec un accent qui n'est pas français. Alors tu comprends pas trop. Puis au bout d'un moment, bon, voilà, tu comprends pourquoi en fait il parle français. Déjà qu'il a déjà un accent en français,
ouais,
étranger. Et donc quand il parle anglais, c'est encore pire. Ouais. Voilà. À côté de ça, t'as les Américains. Bon, t'as l'Amérindien qui parle, Jimmy Picard qui parle avec un accent. Il a un accent.
Oui.
Voilà, il a une façon de parler bien à lui, où tu vois vraiment qu'il y a aussi, il parle très posément. C'est un peu l'opposition, parce que tu as Benicio del Toro, qui est quand même assez costaud,
caisse, ouais, massif,
grosse,
ouais,
caisse, tu vois, vraiment grosse caisse, grosse poitrine, c'est costaud, tout ça. Amalric est tout petit, quand même en train de faire un peu, toujours en train de d'être speedé et tout,
ouais,
l'autre,
ouais,
il est vachement calme, même quand ça va pas, il est très très calme.
Le mystère, de côté.
Voilà, et de l'autre, l'exubérance, ouais. Le personnage d'Amalric qui lâche vraiment pas, qui continue à essayer de creuser. Donc vraiment un jeu d'acteur très bien, à des moments où Benicio del Toro qui part très peu de mouvements juste par l'expression du visage.
Fait passer les trucs.
Ah ouais, il fait passer beaucoup de choses. Et donc après, bon, en regardant un petit peu sur internet ce qu'il avait déjà fait, je me rappelais plus qu'il avait été pris d'interprétation à Cannes, déjà pour Che.
Ouais.
Ah, c'est vrai que j'ai pas vu d'ailleurs, mais bon.
Ouais,
mais Trafic, il avait un Oscar du second rôle.
Ouais.
Et Trafic, j'avais trouvé qu'il était vraiment très très bon dans ce film.
Ouais, c'est très bon film. Deux très bons acteurs.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
C'est vraiment,
donc
bon, mais...
voilà, il y a ça aussi. Et pour terminer aussi, parce que j'aime bien le sujet de la psychanalyse, je trouve ça intéressant parce que ça s'est revenu aussi à la mode ces derniers temps parce qu'on la critique beaucoup, la psychanalyse. Là, à l'heure actuelle, bon, psychanalyse, Freud, tout ça, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de. Il y a eu des résultats quand même depuis le temps.
Ouais.
Ça a été des grands courants de pensée en Europe, aux États-Unis, tout ça. Bon, je vais pas faire le détail parce que je connais pas forcément, mais bon.
Compte-goutte, quoi.
Voilà, on voit que là, comment ça, compte-goutte.
Il y a eu des résultats, mais c'est pas des résultats.
Non, c'est pas ce que Freud disait, c'est qu'on va faire comme ça et
voilà,
ça va
c'est
être.
Ça,
c'est aussi. Enfin,
il y a pas une solution pour 40 000 clients. Un client.
C'est très individuel.
Patient,
voilà.
Individuel.
Mais d'ailleurs, justement, je voulais en venir là. C'est aussi une méthode de thérapie qui est plutôt réservée à une certaine élite. À part dans ces contextes-là de guerre ou de vétérans, la psychanalyse, elle est surtout faite par des gens qui ont un certain statut social. C'est-à-dire, c'est pas le moindre alcoolo du coin qui se picole parce qu'il a eu des traumas dans son enfance, qui va aller suivre une psychanalyse. Il y a de... aussi, il y a aussi une vision un peu élitiste du traitement par la psychanalyse.
Alors, c'est un côté, c'est vrai, c'est très, enfin, bon, là, je suis pas vraiment spécialisé, mais on a vraiment l'impression, effectivement, que c'est plutôt quelque chose qui est réservé aux, entre guillemets, aux classes sociales plutôt intellectuelles.
C'est ça.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que, ouais, c'est justement.
C'est ce que je disais.
C'est, on a vraiment d'un côté, effectivement, un grand intellectuel, et de l'autre, un homme de la terre.
Ouais.
Voilà, quelqu'un qui travaille son champ ou qui va élever son bétail.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et qui n'a pas
vocation à être suivi, quoi.
Voilà, ce n'est pas quelqu'un d'intellectuel, mais ce n'est pas du tout, entre guillemets, un abruti.
Oui, non.
Parce qu'en fait, il n'est pas en danger. Dans le film, il n'est pas en danger pour sa santé.
Ça l'empêche de vivre, quand
ça
même.
Ça l'empêche de vivre.
Il a une grande souffrance morale.
Il peut vivre par lui-même.
Si, il peut. Mais il a une grande souffrance morale qui devient physique. Parce que tout vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, il a beaucoup de symptômes, entre guillemets, plutôt psychosomatique, parce qu'il a des douleurs, il a ses hallucinations, et c'est là où c'est le pressenti à un moment donné de sûrement peut-être du directeur de l'institution qui a fait appel au psychanalyste, c'est-à-dire il choisit de prendre une méthode un peu sur la marge pour voir si, comme il n'y a pas de cause physiologique, c'est que forcément c'est quelque chose de l'esprit.
Oui.
Il a ce pressentiment, et donc c'est pour ça que Devereux entre en jeu et commence à sonder l'esprit donc de la mère indienne pour voir éventuellement d'où vient la douleur et pour démonter les causes de cette douleur pour faire disparaître la douleur.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire il cherche pas à traiter le symptôme, c'est-à-dire il va parce que douleur, hop, médicament, cache-t-on, bon, on règle rien. Non, c'est un peu le concept de la psychanalyse.
Il cherche la cause de la douleur, quoi.
Il cherche à trouver la cause ou du moins à identifier la zone de la cause et à essayer de travailler là-dessus par le verbal, par le récit des rêves, par les associations d'idées aussi.
Ouais.
Souvent, il le dit à un moment donné dans le film, ne réfléchissez pas,
parlez
comme ça vous vient.
D'accord.
Voilà. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a deux phases aussi, c'est intéressant, ça décrit un peu la cure psychanalytique telle qu'elle pouvait être conçue à l'époque, c'est-à-dire que il commence par des entretiens face à face où ils discutent en fait. Et après, il laisse Picard parler tout seul et il dit plus rien.
Le patient parlait tout seul.
Voilà, et après éventuellement, il réagit à des moments donnés.
D'accord.
Bon, il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui réagissent pas du tout, c'est des concepts, enfin c'est des méthodes qui sont parfois surprenantes, parce que des fois ta psychanalyse ils disent rien.
Ouais. Mais ils écoutent.
Mais qui parlent et puis voilà, et puis à toi de te démerder en fait.
Ouais.
Oui.
Voilà. Donc c'est ce qu'il y a après, c'est que bon voilà, c'est intéressant de voir tout ça
ce film il t'a marqué, il t'a plu, il t'a intéressé.
C'est vraiment très très intéressant.
Ouais. Ouais.
Sur beaucoup de plans.
Ouais. Et niveau réalisation, on est aussi, donc tu parlais d'hallucination, de ça, c'est retranscrit comment à l'image?
Bon, là par contre c'est assez simple, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des plans,
est-ce que c'est efficace, c'est ça que...
Oui, c'est
on
efficace.
On comprend dans l'état où est quand même.
Oui, on le comprend, oui, on comprend, on le voit, il fait très bien le on voit très bien quand il est scotché.
Ça le fait souffrir physiquement ces trucs.
Oui, c'est
d'accord,
ça. Ouais,
voilà,
parce qu'en fait,
un masque de douleur, on le voit bien.
Voilà,
ça va être impressionnant de voir Del Toro comme ça.
C'est assez impressionnant.
C'est quand même un super acteur. Lui.
Déjà rien que la scène du début, bon, c'est très con, hein, mais bon, je la spoile pas.
Ouais,
mais,
ouais.
Pour ceux qui iront voir le film, il fait pas grand chose, hein, vraiment, il fait pas grand chose. Mais rien que ça suffit, ça pose une ambiance. Même je l'ai pas reconnu.
Ok.
Le premier plan, je me dis tiens, c'est qui c'est cet acteur? Et en fait, c'est lui.
D'accord.
Voilà. Ouais. Parce qu'il est vraiment, il a vieilli.
Bouffi.
Parce qu'il est pas si vieux que ça, il est en 67.
Ouais,
ouais. Mais voilà, il fait vieux, il fait vraiment.
67?
Je crois, ouais.
Oh, putain. Il a juste, ouais.
Je pensais qu'il était plus vieux que ça.
Moi aussi, ouais. Il a même pas 50 ans.
Je crois pas.
Ah ouais.
Parce que c'est vrai qu'il a une tête, il fait un peu plus âgé que ça.
Ouais.
Parce que
il se vieillit aussi dans les rôles.
Oui, c'est vrai.
Dépêchin, lui, par contre, il est de 60 en fait.
D'accord.
Voilà, donc il est un peu plus âgé.
Ouais, mais
il me semble Del Toro, je crois, j'ai vu, à moins que la fiche Wikipédia soit à la masse, mais.
non, mais j'avais pas regardé, mais ça me surprend parce que
c'est deuxième moitié des années 60.
Ça fait déjà un moment qu'il tourne, je trouve. On l'a vu déjà depuis un paquet de temps, et je le voyais plus âgé que ça.
Ouais. Donc en fait, on le voit vraiment. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir le personnage qu'il joue. Et en fait, bon voilà, je vous dis pas la fin, mais c'est vraiment, alors c'est rigolo parce que c'est considéré par Télérama comme un drame.
Ah.
Drame,
c'est le terme générique.
C'est le terme générique.
C'est pas une romance.
Non, c'est pas une romance.
Ouais. C'est un drame.
C'est pas un film d'action. Non, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre en fait. Et une interaction à un moment donné qui fait que ça fait vraiment avancer. On voit que ça fait avancer les deux, surtout la mère indienne.
Ouais,
mais on sent bien que Devereux à côté, le psychanalyste, anthropologue, On sent bien que ça le bouge en fait.
D'accord.
Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a une question. Alors, Madeleine est partie. Et grosso modo, lui, oui, Madeleine est partie. Mais en fait, c'est surtout son patient qui lui manque en fait.
Okay.
Voilà, parce qu'ils sont tellement allés loin la relation.
Solide.
Voilà. Et après, c'est quand même pudique. C'est pas du truc à l'américaine, genre.
C'est pas le buddy movie où ils vont se serrer dans les bras.
C'est pas du tout
mais
ça.
Mais c'est plutôt une connexion intellectuelle, quoi.
C'est plus une connexion intellectuelle. Et puis, il parle beaucoup, mais tu vois bien quand même que l'amérindien, il est pas forcément super bavard de base.
Ouais.
C'est-à-dire que les autres blancs, en fait, ils n'ont pas réussi à le faire parler pendant un mois.
Ouais. Ils ont rien obtenu, quoi.
Le mec, pendant un mois, il allait parler au patron du café. Mais il parlait pas au toubib.
D'accord. Ouais, parce qu'il avait pas envie de parler avec eux, il les sentait pas,
il se comprenait pas. Et tu vois, après, hop, tac, 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 tac. L'autre, il arrive avec son côté, ouais, pompe l'ep. Et ça parle.
Ok.
Voilà. Donc, pour résumer, si ça vous intéresse un petit peu tous ces sujets-là, que ce soit Benicio del Toro, le cinéma d'auteur, ou éventuellement d'avoir un point de vue sur la psychanalyse.
Ouais, les trois sujets sont intéressants.
Un contexte sympathique. Puisque c'est historiquement c'est quand même assez chargé
à
cette époque-là, juste trois ans après la fin de la guerre.
Ouais, tout à fait.
Donc le monde est en pleine reconstruction. On peut imaginer un peu le contexte et les questions que ça peut poser à ce moment-là. Parce qu'ils n'avaient pas forcément digéré tout ça. Je vois qu'à 60 ans après, on n'a pas forcément digéré.
Il y a encore des trucs qui passent pas.
Donc voilà, Jimmy P
de Arnaud Desplechin,
Benicio del Toro et Mathieu Amalric.
Et donc pour illustrer ce film et donc ce bouquin et cette histoire vraie, peut-être que tu as quelques morceaux de musique à nous présenter, nous proposer.
Alors sur la thématique de Freud et de la psychanalyse, donc j'ai un morceau de Metal Church qui s'appelle Psycho, Metal Church, groupe américain des années 80.
D'accord.
Voilà, celui-là peut-être c'est celui qui a le moins de rapport avec
mais que t'avais quand même envie de le mettre.
Ben voilà, voilà. Après on a un morceau de death metal, je crois que c'est un groupe italien qui s'appelle Aborted Fetus, c'est Unleashed Psycho Analysis,
okay.
Avec l'accent du Gers.
Déchaîne l'analyse psychotique.
Non, c'est Unleashed, c'est Unleashed, c'est-à-dire Sandless.
Oui,
déchaîné, ouais. Déchaîné. Voilà. Psychanalyse déchaînée.
D'accord.
Délaissé.
Voilà. Et après, on a un groupe qui s'appelle la théorie de Freud, et qui s'appelle D'après Freud, According to Freud.
Ok.
Voilà, ça, c'est plutôt, métal, expérimental, progressif, donc je pense que tu vas adorer.
Ok.
Ça, c'était un morceau spécial dédicace.
Eh ben, écoute, je le prends et je l'écoute de suite. Et d'ailleurs, ça fait une petite liaison avec ce dont Xav va nous parler après. C'est-à-dire, on va parler d'un petit groupe américain, c'est Nadi Shtelz. Bon, on s'écoute ces trois morceaux. On revient donc, et merci pour la dédicace. Et allez voir Jimmy P.
See you. dying to fight.
Vous écoutez Full Boxon, émission décalée sur Gascogne FM 107.3 MHz.
Donc de retour après ce petit Freud Theory, toujours sur Full Boxon, sur Gascogne FM 107.3 MHz. Donc je vais passer la parole à Xav, qui avait envie, à l'occasion je crois de la sortie du dernier album d'un groupe, de nous parler donc de Nine Inch Nails, c'est ça?
Ouais, voilà, de Nine Inch Nails, quoi, qui a sorti donc il y a, je crois, un peu moins de 2 mois, le dernier album, Hesitation Marks. Et donc voilà, c'est Reznor, il nous revient avec un petit album bien sympathique. Mais bon, je voulais revenir un peu quand même sur la bio un peu de ce monsieur.
Ouais.
Donc de ce monsieur Reznor. Donc ce monsieur Reznor, Michael de son prénom.
Yeah.
Donc comme ton idole, que je sais bien, Nico.
Ouais,
Michael,
c'est ça.
Michael Jackson.
Michael Jackson.
Non, c'est Michael Owen, moi.
Donc on dira donc pas Trent Reznor mais Michael. Donc il est né, ce petit mec, en Pennsylvanie en 65, donc il est pas tout jeune, hein, maintenant 65 ça nous fait
48 ans prochain. Ouais.
Et donc en fait il faut savoir que ce monsieur Reznor, donc c'est le seul membre en fait officiel de Nine Inch Nails.
Ouais.
C'est lui qui chapeaute tout.
C'est lui qui fait partie de toutes les line-up, c'est lui qui a créé le groupe.
C'est lui qui a créé le groupe et Nine Inch Nails en fait c'est le seul membre.
D'accord.
Il faut savoir que c'est le seul membre.
D'accord.
Donc ce monsieur là, bon, on va parler un peu de son enfance, enfance un peu difficile, parents divorcés, c'est un peu classique quoi, lui en Pennsylvanie, un peu à la campagne, donc je rejoins Mathieu sur les plaines.
Les grandes plaines.
Les grandes plaines. Donc ce petit monsieur, il a commencé le piano à 5 ans, il avait que ça à foutre là, donc là-bas, il y avait rien d'autre à faire,
d'accord.
Il regardait la télé, et il joue au piano, il joue la musique. Bon, ses parents ont divorcé. Et il s'est retrouvé donc à vivre chez sa grand-mère.
Ouais.
Et donc, à part la musique, le piano, il n'avait que ça à faire. Et donc, il s'est un peu refermé sur lui. Et il regarde la télé, comme un peu beaucoup de gens actuellement. Hein. Il s'est un peu refermé sur lui. Et il était que, il avait que ça à faire, quoi.
D'accord.
Il avait que, c'était son passe-temps. Après, ce petit Michael, donc, est parti au bahut. Bon, un peu compliqué parce qu'il était, comment dire.
Lunaire.
Il était. Un peu solo quoi, il
un petit peu asocial.
Un petit peu asocial,
ouais.
Il n'a pas trop, il était pas un peu bené, mais un peu trop renfermé sur lui-même.
Eh oui, s'il vivait avec sa grand-mère, ça se comprend.
Il vivait avec sa grand-mère, et donc il se renfermait un peu sur lui-même, il participait aux trucs de musique, tout ça, il restait essentiellement dans la musique. Mais il est parti du collège assez tôt pour se tourner essentiellement vers la musique.
D'accord.
Donc il a touché. Je crois qu'il a joué du saxo, il a joué du tuba, il a participé à des groupes. Dans les collèges, il jouait essentiellement dans des fanfares, dans des groupes de jazz aussi. Il a commencé au piano, tout ça.
Formation musicale éclectique.
Ouais, voilà, il a fait un peu de tout.
Multi-instrumentiste. Voilà.
Ouais. Gros fan de David Bowie. Très très marqué par l'album Low là, de David Bowie, je crois. Et donc il en parle très très souvent. Parce que c'est vrai qu'il est pas souvent.
C'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'interviews, de choses où il se livre.
C'est plus un homme, mec de l'ombre quoi.
Ouais.
Après on sait pas trop si c'est par rapport à son enfance et tout. Lui il revendique que non, mais bon c'est vrai que quand on entend sa musique, ça respire pas non plus
la joie de vivre.
Ouais,
faudrait peut-être qu'il parle avec Devereux pour qu'on en sache un peu plus.
C'est pas mal. Ouais. Mais effectivement Bowie, la relation avec Bowie, parce que Bowie l'avait invité dans le clip I'm Afraid of Americans.
Voilà. Et puis il a été producteur. Sur l'album Outside de Bowie.
D'accord.
Donc il a fait des remixes pour Outside, je crois, qu'on peut voir dans le film Seven, je crois.
Oui.
Parce que c'était un peu le parallèle, l'album de Bowie, là, Outside, c'était pareil, un peu comme Seven, c'était la mode des films de serial killer et tout.
Ouais,
Outside,
ouais.
Ça traite un peu de ça, c'est quand on aura de le livrer, c'est un peu. Et très très Reznor était dans l'ombre de ça, a produit, remixé des trucs. Et,
oui, c'est vrai.
Et c'est vrai qu'on le retrouve dans le clip de I'm Afraid of America.
Donc il a réussi à bosser avec son idole.
Voilà.
D'accord.
Donc, champagne.
Il dit aussi Reznor que bon, Bob Lennon, John Lennon, Bob Lennon.
C'est le pote à John Marley.
C'est ça.
Bob Lennon, oui.
Qu'on
retrouvera sur internet pour les trucs.
Non, c'est Imagine a woman no cry.
Ouais, c'est pas mal comme ça.
Ouais, il dit que John Lennon, quand il est mort, il en a rien à foutre. Tu
Working
vois, lui, c'était, ce qui l'a marqué, c'était la mort de Freddie Mercury.
Ah ouais.
C'est pour ça que je le dis, parce que Nico.
Ah, t'aimes pas Freddie Mercury? Bah, Queen, Michael quand même. Je suis ultra fan de Queen.
On va faire une spéciale pour Nico et Matt de Queen.
Je serai en congé là.
Mais jusqu'en. Ouais, non, mais tous en fait. Mais non, moi, je préfère quand même les vieux.
Moi, je suis d'accord tous, mais je supporte aucun, quoi. Alors, j'ai peut-être une petite anecdote avant de te laisser continuer. Peut-être pourquoi. Je me rappelle, j'étais jeune, je devais avoir 14-15 ans. J'étais à Bergerac en famille. On va dans une espèce de boîte pérave avec donc ma sœur et mes cousins. Et là,
qui s'appelle Windsor.
C'est ça.
J'y suis allé.
Et on tombe donc sur We Will Rock You de Queen. Et là, il y a à peu près une 15-20 de chemises brunes bergeracoises qui arrivent et qui viennent faire des zig aisle sur ce morceau de Queen. Et depuis là, ça a été complètement fini pour moi. Voilà.
Alors, mais quelle
horreur. C'est pas la faute à Queen, c'est pas la faute à Freddie Mercury, mais j'ai cette image qui me reste dans la tête.
C'est horrible. Et
on s'est barré. Avec ma sœur, on a vu ça, on s'est barré direct.
Ah, hein,
on est rentré parce que là, on était là. Où est-ce qu'on est tombé?
Oh, c'est clair.
Voilà. Bon, petite anecdote. Je n'aime pas Queen, ça c'est sûr. Je n'aimerai jamais Queen. Peut-être que ça fait partie du pourquoi du comment, mais en tout cas, ça c'est sûr que non, quoi. Oui, non, pardon, Xavier, je t'ai coupé pour cette anecdote à la con.
Il faut dire ce qui est.
Il faut dire ce qui est, ouais.
Le Windsor à Bergerac. Mauvaise adresse. Enfin, je sais même pas si ça existe encore.
J'y suis allé une fois, il y a une vingtaine d'années, ouais.
T'as joué derrière une grille et tout, t'as balancé.
Non, c'était avec des cousins qui étaient du secteur. On était partis. On avait fait d'abord la boîte à Kenka, puisqu'on était partis en famille avec les parades. C'est pour les 50 ans. Donc, bon, ça me rappelle. Mais sinon, je vais repartir dans mes digressions. Et en fait, il y avait deux salles. T'avais une salle un peu variété, où là, c'était posé avec limite les petits napperons sur les tables et tout.
Frankie Vincent.
Tranquillou. Non, c'était avant ça, bien avant Frankie Vincent. C'était vraiment plutôt début 90, ça devait être en 90 c'était.
Ouais.
Voilà. Et t'avais la salle Jones, qui était un carnage, hein, où il y avait, je sais pas, 500 Jones décalqués de l'autre côté. T'avais deux salles de ambiance, et la grande salle, c'était l'enfer. Avec le DJ, qui était une espèce de tour de contrôle, qui était au premier étage, en fait. Qui était un espèce.
Et bienvenue pour l'anniversaire!
Ouais, c'est ça, mais c'était carrément une tour de contrôle, c'est-à-dire que le mec était derrière des vitres en plexiglas. C'était fermé, ça.
Ouais,
c'était.
Chimpanzé.
C'était un peu moche, ouais, c'était pas un très très bon souvenir. Bref.
Oui, bref, donc le Queen, ça sera non, mais ça sera sans moi. Alors, on continue donc sur Randy Schnells.
Ouais, donc voilà, donc on retourne à notre petit Michael.
Michael Reznor.
Donc il faut savoir qu'aussi il sort d'une famille, malgré qu'il soit lui refermé, tout ça, il n'a pas eu une enfance triste parce qu'en fait son grand-père avait une grande entreprise, je crois qu'il faisait du chauffage, climatisation, mais dans les années 1880.
1800.
Et qu'ils ont revendu, je crois, dans les années 60.
D'accord.
Donc c'était un gros truc, c'était la Reznor Company, je sais pas quoi, un truc.
Okay.
Et voilà quoi. Donc
ils avaient de l'argent, quoi.
Ils avaient de l'argent et tout. Donc ses parents, quoi, ils sont séparés, ils sont allés d'un bout du pays à l'autre. Donc il est resté chez sa grand-mère.
D'accord.
Alors le petit Reznor, il était là devant la télé, il regardait les trucs, il voyait les mecs se foutre des thunes pleines les poches et tout. Il regardait et il voyait qu'autour de lui, il y avait rien, quoi.
D'accord.
Il était à la campagne.
Donc, il se met à fond dans la musique, tu disais, avec les fanfares, des petits groupes de jazz.
Arrive au collège, il joue du piano depuis l'âge de 5 ans. Après, il s'est mis. Tuba, saxophone, guitare, bien sûr, basse, il touche un peu à tout. Et donc, ce mec, il fait collège, il participe à plusieurs groupes, comme on a dit, des noms un peu exotiques, style Slam Bamboo, je crois.
Ça, c'est mignon, ça.
The Innocent, Exotic Birds, exotique. Donc, un peu, tu vois, pas trop de ce qu'il fait maintenant, quoi.
D'accord.
Et donc, ce monsieur, donc, il en avait marre, il a quitté le collège.
Ouais.
Et il a décidé de voler de ses propres ailes et d'essayer de trouver un petit travail.
Ok.
Et il a trouvé donc un travail sur Reznor dans un studio d'enregistrement.
Voilà. Ah, super.
Donc, il se rapproche de sa passion déjà.
Voilà.
C'est clair.
Et donc, il était ingénieur assistant et concierge.
D'accord.
À ce moment-là. C'était le Right Track Studio, ça s'appelait.
C'était où?
Mais je crois que c'était en Pennsylvanie aussi. Et le mec qui tenait ça, c'était un certain Bart Coster. Le mec, il faisait des petits enregistrements de groupe là-bas. Et donc le Reznor, lui, bon, il passait son temps à nettoyer le sol. Il faisait pas trop de son, quoi.
Ouais.
Et puis il arrive un moment où c'est que bon, Reznor, de son côté, quand même, il avait plein d'idées. Il avait envie de faire de la musique, quoi, de créer, quoi. Et il a proposé à Coster de travailler un peu plus, et que pendant les heures de fermeture du studio,
ouais, c'est classique.
Il va enregistrer ses petits trucs.
Ah, il y a beaucoup de producteurs qui ont commencé comme ça.
En fait, il a mis
la nuit, quoi.
Ouais, voilà, il a mis le petit pied dans le studio pour justement s'en servir pour continuer à progresser.
Donc il commence à faire ses petits micmacs là, ses petits enregistrements. Il en sort un 8 titres. crois que c'était un 8 titres ou un 6 titres. C'était, ben, il appelait le Right Track album, je crois.
Ok. Orienté quoi comme style?
Ah, c'était déjà, c'était, bon, il y en a qui qualifiaient ça de pop, synth pop,
carrément.
Ouais, mais ouais, au début, synth pop, comment dire, pas vraiment industriel encore, parce qu'on le verra avec Pretty and Machine, qui est déjà le premier album. Qui commence à annoncer la couleur de Nine Inch Nails, mais qui est quand même un peu encore bien électro, côté quand même des années 90, je trouve.
D'accord.
Donc on va venir se prêter une machine donc qui sort juste après. Il a réussi à sortir par rapport à ce studio, sur ce studio, parce que le mec il a trop kiffé, quoi.
Ouais. Tu les as écoutés, les premières démos?
Le Right Track, non, parce qu'en fait, si tu veux, ce 6 titres, ou je ne vois plus, enfin, on s'en fout.
Un petit OP.
En fait, il a repris les morceaux et il les a mis sur Pretty and Machine.
Ah, d'accord.
Donc, il a rajouté, je crois, 2 morceaux sur Pretty and Machine.
D'accord, ok.
Donc, il a enregistré ça là-bas au Right Track truc, là. Et bon, ça a été un bon vieux succès. Il a eu.
Plutôt local ou national?
National.
Ou international?
Même,
un bon succès national, d'accord.
Ouais. Bon, le son, après, c'est pas encore ça, moi je trouve, sur Pretty and Machine, mais bon.
Et donc, tu disais sur Pretty and Machine, on est plutôt sur un truc plus pop années 80 que sur de l'électro ou de l'indus.
On voit déjà la forme musicale de Nine Inch Nails se arriver, quoi, parce que c'est
place,
quand même un peu indus, vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de claviers. Si on réécoute Pretty and Machine maintenant, après avoir écouté les derniers, par exemple, on sent la différence, quoi, par rapport. Mais bon, après, on voyait déjà la noirceur du mec.
D'accord.
Et tout,
Donc déjà, il pose les bases de ce qui va devenir après, quoi.
Parce qu'après, lui, bon, le truc avec Reznor, c'est qu'il veut avoir un main surtout.
Okay.
Et donc, bon, après, le problème, c'est qu'il signe avec une maison de disques, TVT Records, je crois, c'était.
Ouais.
Et donc, il va sortir donc avec eux, c'est, je crois, le deuxième album, c'est Broken.
Yep.
Il sort Broken, okay. Donc celui-là, il commence à avoir une bonne production et tout, gros succès commercial.
Ouais.
Avec plein de hits, et des clips commencent à affluer, March of the Pigs. Je crois plus, je crois que c'est Happiness, annoncé après ça.
Ça, c'est dans l'inspiral, non?
Ouais. Et donc voilà, bon succès critique, bon clip. Bon, il commence à avoir un peu de soucis avec la censure par rapport à quel clip.
Avec le PMRC.
Il y a quelques petites critiques, quelques censures. Après, le gros problème qu'il y a eu après cette sortie de Broken, justement, c'est sa maison de disques.
Oui.
Qui est tombée sur Reznor et qui a dit qu'il voulait avoir les droits sur son œuvre, sur ce qu'il allait faire, quoi.
Futur, sur son futur.
Il voulait avoir le guider dans son parcours musical.
Il voulait avoir la direction artistique.
La direction artistique complète. Donc Reznor, il a dit, vous me prenez pour un con, il n'y a pas moyen. Lui, il voulait tout gérer, il a enregistré. Il faut savoir qu'il a enregistré tout lui-même.
D'accord.
Ouais. Sauf des fois la batterie, qui laissait, il invitait les gars. Parce que c'est vrai que ce qu'on dit, ce que je voulais dire, c'est que Nine Inch Nails, il faut savoir que, comme on disait tout à l'heure, c'est le seul membre. Et que Nine Inch Nails, c'est une entité, en fait, que chaque tournée, chaque album, ça change de line-up.
Ouais,
c'est jamais les mêmes.
D'accord.
En fait, c'est plus, il compose les morceaux, il invite des gars, et souvent, les compos, elles changent par rapport aux gars qui jouent avec lui, quoi.
D'accord.
C'est pour s'approprier un peu le jeu de chacun, quoi. Et j'en étais où, Donc,
on était à Broken.
Ouais, on était à Broken.
Mais d'ailleurs, attends, Xav, juste pour permettre aux auditeurs d'écouter un peu l'évolution de Nine Inch Nails, donc, et de Reznor, peut-être que tu pourrais nous présenter deux morceaux, un du premier EP, donc, tu disais White Track Album, et
de Pretty Machine.
Et oui, voilà, Pretty Machine, t'as raison, et un autre de Broken, histoire de faire une petite intro pour voir justement la genèse et le début de Nine Inch Nails.
Voilà, vous allez voir, que le son, bon, déjà, c'est au niveau production, forcément, ça change, je crois.
Ouais.
Donc, on va s'écouter, bon, Pretty Machine, il est sorti en 89. Donc, ça fait déjà un petit bail.
Ouais, ça fait un bail, ouais.
On va s'écouter deux petits morceaux, si c'est possible.
Vas-y.
On va s'écouter Sin et Something I Can Never Have.
D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était sur Pretty Machine.
Sur Pretty Machine. Et après, bon, Broken, trois morceaux qui boulèguent bien. Trois morceaux.
Allez, trois.
Tu en fais comme tu veux.
Non, mais trois, ouais.
Bah, il y a Wish, bien culte, quoi. Gave Up.
Ok.
Et Happiness in Slavery.
D'accord.
Bon, mais Happiness in Slavery, clip justement.
Donc le clip censuré, tu disais.
Si certains veulent voir ce que ça donne sur internet, je pense qu'il y a encore en version non censurée, je crois.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est un peu trash et.
Ok.
Le puritanisme américain a été choqué.
Ça va être très bien. Bon, mais écoute, on s'écoute donc ces cinq morceaux de Nine Inch Nails, donc extrait des deux premiers albums, et ben on revient pour continuer pour la suite.
Ça marche.
dreams of you still wash ashore. Scraping through my head till I don't wanna sleep anymore. You make this all.
Vous écoutez Full Boxon, émission décalée sur Gascogne FM, 107.3 MHz.
Ouais, bon, après cette petite écoute de Nine Inch Nails, quoi, on va parler maintenant, bon, on a parlé de Broken, donc vous avez pu noter certainement. À l'écoute un peu l'évolution du monsieur. Et donc après ce Broken, donc ces petites, j'arrête pas de dire, donc...
C'est pas grave. Donc là, on est en quelle année, là?
Là, on s'approche, on était en 92 avec Broken.
Ok.
Et donc, il a eu ses petits problèmes, des gros problèmes avec
la censure
et sa maison de disques.
Ce
qu'il a fait, lui, bon, il a, donc ça a été très 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 long, la guerre juridique.
À l'américaine.
En fait, ce qu'il a fait, il a pris plusieurs pseudos et il a continué à enregistrer.
D'accord.
Voilà. Ok.
Donc, il se dirigeait, lui, vers Downer Spiral, ce qui est l'album le plus vendu de Nine Inch Nails, plus connu, le plus tubesque, quoi, disons.
Ouais. Un super packaging aussi.
Super packaging, remixé dans tous les sens et tout. Et donc, pour enregistrer cet album, Monsieur Reznor, Michel, donc, voulait enregistrer à Nouvelle-Orléans. C'était un rêve, je sais pas dans quel studio, dans Nouvelle-Orléans, mais certainement, il y a un gros studio. Enfin, c'est peut-être aussi pour... Donc ce mec, il visite plein de baraques, trop cher, il a pas les moyens et tout, parce que c'est vrai qu'il investit pas mal, du coup qu'il a pas la maison de disque, il est indépendant, il investit
donc
pas
il
mal.
Il met ses thunes dans la production, distribution.
Et il cherche une maison où c'est qu'il pourrait s'installer, quoi.
D'accord.
Donc en fait, il visite pas mal de baraques, et en fait son choix, ce qui est marrant, son choix s'arrête à Los Angeles, sur une maison, c'est le... 10050 Cielo Drive. Je sais pas si
c'est la maison, c'est la maison de Manson.
Voilà, c'est la maison où c'est que Sharon Tate a été
assassiné.
Ouais, c'est pas la maison de Manson, ouais, c'est la maison de Polanski, par contre.
Voilà, c'est la maison où c'est que Sharon Tate a été assassiné tutti quanti.
Ouais.
Avec Charles Manson et la famille, là.
Donc de Louisiane, il s'est retrouvé en Californie.
Voilà. Il est à Los Angeles.
C'est pas la même, hein.
Et bon, après, il a visité plein de baraques et son choix s'est arrêté là. Il dit que c'est pas par rapport à ça.
Ouais.
Bon.
On le croit pas, en tout cas.
Après, il a appelé,
c'est quand même marqué, comme endroit.
C'est ça. Et donc, c'est là qu'il a enregistré
Downer Spiral. Spiral là-bas. Donc, il a appelé cet endroit, le Cielo Drive, là, 10050 Cielo Drive, The Pig. Parce que Sharon Tate, apparemment, elle avait écrit en lettre de sang sur la porte, Pig, je sais pas quoi.
Non, c'est pas Sharon Tate, c'est les adeptes de Manson qui avaient écrit sur les murs avec le sang de Sharon Tate.
Ouais, c'est plutôt ça, ouais.
Qui avait écrit Pigs signifier à tout le monde qu'ils étaient contre ce modèle, ce système.
Donc il appelle ce studio le Pig.
D'accord.
Et il enregistre donc tranquillement Downer Spiral. Donc album bien dark avec des morceaux.
Et donc tu disais aussi c'est
7-8 minutes des fois.
Ouais, et tu disais c'est celui qui a le plus grand succès commercial de l'histoire de
l'humanité. Il a été à l'époque, je crois que Reznor, quand il a sorti Downer Spiral, il est dans les gros magazines américains, dans le Time, tout ça, il était comme un des plus gros
vendeurs,
artistes contemporains,
influents,
une référence,
le Forbes, les gens influents, d'accord.
Et voilà quoi, donc bon, après Downer Spiral, je vais vous faire écouter quelques petits morceaux.
Ouais.
On va s'en écouter quoi, deux de
Downer
Spiral.
Si tu veux.
On va s'écouter, forcément March of the Peak.
Ouais, March of the Peak est peut-être l'hymne de l'album.
Ah, c'est avec son intro, avec son rythme de batte décalé et tout. Et on va s'écouter après du classique avec Closer.
Ok.
Voilà.
Donc Closer, c'est un morceau qui a été aussi super repris par plein de monde.
Ah, ça c'est Nine Inch Nails, c'est remixé, repris. Mais bon.
D'accord. Bon, mais écoute, on s'écoute donc ces deux morceaux de l'album Downward Spiral de Nine Inch Nails. On est donc dans les années 92, tu me disais?
C'est 94 Downward Spiral.
94, ok. Bon, mais on s'écoute ça et puis on revient pour parler de la suite.
Stop right up! March! Lord! make you feel better. The pigs have won tonight. They can all sleep soundly, and everything is alright.
Donc voilà, donc on est toujours en 94, on vient de s'écouter deux morceaux de l'album de Downward Spiral de Nine Inch Nails. Donc qu'est-ce qu'il fait après, Xav? Il fait quoi ensuite?
Bon, après il pinaille un peu, non, parce que bon, comme tout artiste, bon, il tourne un peu, tout ça, il... Bon, il y a des petits problèmes d'alcool, tout ça, on le dira pas.
Oui, mais sans doute, en même temps, vous avez la musique
bon,
qu'il fait.
Enfin, c'est pas là le plus grave, hein, parce que là, bon, déjà, dans la spirale, ça met bien 5 ans à digérer avant la sortie de The Fragile qui sortira en 99.
Tu vois, Matt, il y a des artistes qui mettent plus de temps que toi.
Ah ouais, il faut savoir que.
Ouais, mais ils vendent des disques.
Ouais, donc ça vaut le coup.
Il faut savoir que Broken et Downward Spiral, c'est des albums qu'il a remixés. Il a participé entre temps à plein de trucs aussi. Ouais. Il faut pas oublier que bon, Reznor, il est musicien mais producteur aussi.
Ah ouais, ouais.
Donc
c'est
il a participé. Bon, il y a pas beaucoup de gens qui le savent. Qu'il a produit les deux premiers de Marilyn Manson, je crois.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Il a produit le EP aussi, la Smell Like Children, ou je sais pas
ouais,
quoi là.
Ouais, ouais, ouais.
Après, il a participé à la première collaboration que lui, il dit, sa première collaboration, c'était avec Jürgensen de
Ah,
Misery.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que c'était, bon, je me rappelle plus, dans les années 90 qu'il a commencé à collaborer avec eux. Je me rappelle plus le nom du groupe, ça s'appelait DJ Homo, un truc comme ça. C'était un nom, okay. Tu vois, d'accord. La Ministry, un peu farfelu, là.
D'ailleurs, tu parles de Ministry et de Reznor. Moi, j'ai un souvenir d'un live, d'une vidéo de Ministry avec Reznor au chant. En train de derrière une grille qui un live cataclysmique complètement bourrin de cette collaboration quoi.
Ah, c'était peut-être à cette époque-là parce que c'est vrai que c'est des potes et donc lui il produisait à cette époque-là et il participait aux albums de Ministry aussi quoi.
Ouais, donc multicasquette quoi Reznor.
Et donc il y a eu des petits problèmes à cette époque-là avec encore sa maison de disques.
Ouais, d'accord. Hein.
Toujours
parce qu'il attaquait. Alors il avec ce groupe là, DJ Homo avec Jürgensen, là, qui il y avait le guitariste de Ministry aussi, je crois, je m'en rappelle plus. Il avait accolé sa voix dessus et il a eu des problèmes à cause de ça, donc ils ont été obligés de changer sa voix et tout sur l'album pour pas qu'on le reconnaisse et tout.
D'accord.
Donc il est toujours tombé sur des maisons de disques un peu chiantes
ouais,
avec lui.
Quoi.
Il a toujours eu des problèmes quoi. Bon, en revenant sur les trucs de production, ouais. Quoi, Marilyn Manson bien ouais. Sûr. Après ouais. ça a été la grosse époque des films dans les années 90, il y a eu The Crow, je crois.
Ouais.
Il y a eu Tourney où c'est qu'il a été B7 comme on disait.
Ouais.
Après, il a participé à pas mal de musiques de jeux vidéo aussi.
Ah ouais.
Je crois qu'il y a Quake, il y a carrément les mecs, ils ont des lance-clous et il y a le logo Nine sur les cartouches et tout.
D'accord.
Savoir aussi, je voulais revenir sur le nom de Nine Inch Nails parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'est-ce que ça veut dire, si c'est une mesure, c'est le pouce, je sais pas quoi.
Ouais.
Lui, il dit qu'en fait, c'est parce que ça sonne bien. Quoi.
Ouais. Comme notre ami X qui disait que Da Sexuality parce que ça sonnait bien.
Voilà.
D'accord.
Reznor dit Nine Inch Nails parce que ça sonne bien.
En même temps, ça sonne bien, mais ça veut dire c'est des clous de cercueil, quoi. Hein.
Ouais. C'est des clous de 9 pouces. Hein.
C'est ça.
Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, c'est de la provocation. Nine Inch Nails, c'est justement ça, c'est les clous qu'on
les pommes funèbres se servent pour fermer les cercueils.
Et pour Jésus aussi, enfin pour
d'accord.
Pour,
ah ouais, d'accord.
Pour la crucifixion. On dit c'est les clous de la crucifixion.
Ah, d'accord.
Il y en a un plus marrant qu'on dit que c'était la taille des griffes de Freddy. C'est encore plus faux que
rien. Ah, c'est assez comique, ça.
Ouais, voilà. Donc, il y a pas mal d'anecdotes sur le nom.
Ça, c'est chercher des significations. Là, il y en a pas, quoi.
Et Wolverine, si on parle des griffes. Et alors, Wolverine.
Seven Inch Nails.
Et Edouard Romain d'argent.
Ouais, donc, bon, Reznor sur Manson, donc,
ouais.
Il a produit Portrait of an American Family.
Ouais.
Antichrist Superstar.
Ouais, ils sont pas mal, ceux-là.
C'était à l'époque où Manson était encore un peu dans la provoque, mais avec du son derrière, quoi.
Ouais, ça fait du rock, quoi.
Avec Twiggy derrière.
Ouais.
Il a produit Smells Like Children.
Ouais, Children, ouais.
Après, comme je disais, il a participé à plein de BO de jeux. Il y a, pour ceux qui connaissent, il y a American McGee Alice, là. C'est un truc Alice au Pays des Merveilles un peu malsain. Il a,
okay.
Il a signé.
D'accord, on connaît pas celui-là.
Après, bon, bien sûr, là, actuellement, il a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça avec les Queen of Stone Age aussi, sur le dernier, apparemment.
Ah ouais?
En producteur? Toujours?
Je crois qu'il a collaboré juste sur le
d'accord.
dernier. Il a fait une musique pour Doom 3 aussi.
Ok.
Et apparemment, la musique de Doom 3 n'a pas été utilisée pour d'obscures raisons, donc. Voilà.
D'accord.
Il est aussi, il apparaît aussi sur un autre de Queen of Stone Age, sur Hera Vulgaris là.
Ah ouais.
Ouais, il est aussi de.
Ah
de
merde. Ouais, ça je savais pas.
Tiens. Ouais, donc. Après, bon, encore jeux vidéo, Midnight Club. Après, dans les séries, dans les experts, dans les films. dans plein de trucs. D'accord, on le retrouve dans Terminator Renaissance, dans
ah ouais,
dans les experts pas mal, dans Tyranny on l'a dit, de Hitcher, de la cabane dans les bois, il y a beaucoup de Nine Inch Nails, le The Crow bien sûr, on va en parler, ouais. Et bien sûr Seven,
okay. Et niveau
Lost Highway, on oublie Lost Highway,
ah oui, Lost Highway,
c'est que il a produit
le aussi, monument de Lynch pour
ah
moi,
ah oui, oui c'est vrai, ouais.
Putain, il a produit la bande de son avec, en collaboration avec Angelo Badalamenti,
voilà. J'avais oublié ça, ouais. Donc, c'est excellent, signé, ça.
Qui est énorme, qui peut s'écouter, ça existe en CD, moi je l'ai en CD, cette BO, tu peux l'écouter comme ça, il n'y a pas de problème.
D'accord. C'est monstrueux.
Ouais. Dans The Double Generation aussi, dans
tous les
films.
Ah ouais, ouais.
Double Generation.
Ah, le bouquin est excellent. Brett Easton Ellis.
Le film est pas si bien que ça.
Dans Wanted. Dans Wanted aussi, on en parlait tout à l'heure.
D'accord.
On le retrouve un peu partout, mais dans les trucs les plus, dans les experts.
Donc là, on voit sa casquette de producteur et de collaborateur, mais niveau album solo, qu'est-ce qu'il fait là? Donc on était en 94 avec Broken. Ouais.
Alors là, maintenant.
Non, The Downward Spiral on était.
C'était The Downward Spiral, ouais. Donc, 5 ans après.
Toujours, ouais, 5 ans.
Il s'est démêlé avec sa maison de disque, il a proclamé, il est indépendant maintenant, donc, il fait tout seul.
Les gestations sont longues quand même.
Ouais, mais bon, il faut digérer tous les remixes sont sortis, parce qu'il y en a, ils en sortaient des coffrets à rallonge, des morceaux remixés 10 fois.
Ouais, mais qu'est-ce que je veux dire, est-ce que c'est des remixes qu'il a voulu, ou est-ce que c'est plutôt les maisons de prod qui s'en emparent?
C'est lui qui a fait des remixes et il a invité des collaborateurs.
Donc c'est pas les maisons de disques qui pompent son matos pour faire des choses, pour faire de la thune, quoi.
C'est des trucs remixés, peut-être que à la prochaine émission on en écoutera
deux ou trois remixes
de Nin, quoi, qui sont quand même des sympas, qui cardonnent bien, quoi.
Ouais, pas de soucis.
Et donc après,
donc là on est en 99.
Voilà, 99 sort The Fragile, double album. Ouais. Alors là il a changé un peu de cap dans dans la mise en scène déjà.
D'accord.
Sur scène,
ouais.
Parce que là c'est parti, il y a des morceaux vraiment vraiment très très calmes sur scène, ils sont avec des écrans, c'est un peu soft, zen,
planant,
après ça pète, c'est planant, ça pète, les deux galettes du double, ça monte, ça descend, mais c'est un très 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 bon album, quoi.
Ouais.
Mais c'est pas encore une référence comme Downer Spiral, parce que les morceaux ont moins d'impact.
D'accord.
Parce que,
moins tubesque, on va dire.
C'est moins tubesque, mais
plus expérimental.
Moi, je trouve c'est un album qui s'écoute de bout en long et vraiment avec plaisir, quoi.
Ok.
Et donc, je vous propose d'écouter deux morceaux de cet album.
Ouais.
Bon, il y a un morceau planant, c'est La Mer.
Ouais.
Donc, vraiment, ça fait vraiment passer à la merde. Ils se mettent un écran derrière avec.
Toi qui es fan en plus de l'écoute au casque bien forte, c'est un morceau
c'est trippant.
Ouais.
Et après, un morceau qui est devenu aussi assez culte et où c'est qu'il y a eu pas mal de problèmes avec encore la critique. Ouais. Starfuckers Incorporated.
Starfuckers.
Donc voilà, il parle de l'industrie.
Ouais, du Star System.
Voilà. Et voilà, on va s'écouter ça et puis bonne écoute.
Allez, on revient.
God, sits in the back of the limousine. My God comes in a wrapper of cellophane. My God piles on the cover of the magazine. My God.
Full Boxon, émission décalée sur Gascogne FM 107.3 MHz.
Donc, après cette petite écoute, Starfuckers, j'avais oublié de dire, Starfuckers, excusez-moi, Incorporated,
Incorporated.
INC, c'est marqué sur le truc. Hein.
Inc.
Inc.
Donc vous c'est qui critique acerbement le
Star System,
le Star System américain, et il y en a un qui prend pour son grade. Apparemment, c'est Marie Manson qui le prend assez mal, quoi.
Ouais.
Donc
après avoir bossé, avec lui,
Il a pris pour lui. Bon, les deux, ils étaient à une période où c'est que bon, ils devaient bien se mettre plein la tête.
D'accord.
Donc ils se sont bien brouillés et en fait. Ils se sont retrouvés en concert, et ça va mieux, on les retrouve au Madison Square Garden 2007, tous les deux sur scène, donc tout va mieux.
Quoi. C'est la galerie de sourires de Chips, quoi.
Ça ouais, va. Voilà. Ouais.
C'est la réconciliation, mais pour faire un album qui vend de la thune.
Ouais, donc on sent que cette tournée, Reznor il va déjà sur cet album, il y a quand même des morceaux, Starfucker surtout.
Donc c'est fragile, toujours.
Oui, oui. Starfucker qui cartonne bien. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, voilà. Donc lui, déjà qu'il était renfermé sur lui-même, il se renferme encore plus dans ses studios et tout ça. Et il repart pour 5 ans.
D'autisme, 5 ans d'autisme musical.
Là aussi qu'il sort, il sort quasiment rien. Il fait que des petites collaborations, toujours sur le cinéma, tout comme ça. Et surtout, il combat son alcoolisme récurrent là depuis.
Ouais, ses problèmes d'héroïne aussi.
Héroïne, alcoolisme.
Ouais, d'accord.
Il en sort grâce à la musique apparemment. Ouais, okay, ouais. Il sort donc, je disais, 5 ans plus tard, même 6 ans plus tard, il sort With This.
D'accord, moi je connaissais pas celui-là.
C'est 6 ans plus tard, ouais.
Ouais.
Donc là, Reznor est sorti de son bourbier psychologique et tout ça.
Ouais.
Il commence à se remettre bien au travail et tout, et il commence à se tourner vers les nouveaux médias, à savoir Internet, tout ça.
Ouais.
Et il en profite. Savoir qu'il commence à mettre des fichiers sur Internet sous divers noms, sous divers domaines.
Ouais.
Où c'est que les gens ils peuvent remixer ces morceaux,
sous
site de trucs, Pro Tools, tout ça, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Et il commence à digérer avec Internet, quoi.
Alors, il se sert du nouveau média pour quoi, faire participer ses fans.
Voilà. Il crée plusieurs sites qui ont des liens entre eux.
Okay.
Et après, bon, c'est surtout pour la Zico. En fait, il propose aux fans de remixer ses morceaux et après de pouvoir les mettre sur des remixes, ce qu'il a fait après, quoi.
D'accord.
Il a mis sur Internet ses morceaux, il a en format qu'on puisse
téléchargeable,
livre téléchargement.
Ouais, ouais.
Et après, il en a fait une compile remixée par ses fans, quoi.
Mais Punish l'avait pas fait ça. Il avait pas fait un morceau, Vincent.
Je crois, ouais.
Ouais. Il me semble, ouais.
Ouais, je crois, ouais. Peut-être que l'influence, ça vient de là.
Ouais, ouais. Non, mais il y en a, de toute façon, dedans. Mais il me semble que Vincent l'a fait, ouais.
Okay. Ouais,
qu'il avait remixé un morceau.
Faudra voir si on arrive à choper Vincent ou Xavier en interview pour Showboxon, ouais. Ouais, leur poser la question. Faudra s'en rappeler, ouais.
Ouais.
Donc, ouais, Xavier.
Ouais, donc on va s'écouter. Donc, on a écouté de With This. On est sur With This là de 2005, quoi.
Ouais.
Donc on va s'écouter deux petits morceaux ou un comme tu veux.
Bah, un ou deux, pareil. Tu choisis. Hein.
Bon, moi je vais vous proposer The End That Feeds.
Oui.
Et Every Day Is Exactly The Same. C'est dur à dire.
Every Day Is Exactly The Same.
Voilà.
Every Day Is Exactly The Same.
Every Day Is Exactly The Same.
Bon, mais on s'écoute donc ces deux morceaux de l'album de Fifty,
voilà.
C'est ça.
Et voilà, on continuera après.
Et allez, on continue un peu la disco de Nanny Snell.
Ça va.
Yes.
Oh,
Voilà, donc de retour sur 107.3 Gascogne FM pour l'émission Full Boxon du mois d'octobre. Donc on est en train de faire la disco de Nanny Schnells, et bien on va continuer, Xav. Donc on est en quelle année, quel album on est là pour poursuivre?
Ouais, en 2005 avec Wiftis, ouais, avec les dents. Et donc deux ans après.
Ah, il allait plus vite cette fois.
Il allait plus vite, il nous sort Year Zero. Et donc là, c'est un peu un trip, justement, la Bowie qu'il avait fait avec Outside. Il parle d'une société utopique, tout ça. Bon, je vous laisse le plaisir de voir un peu de quoi ça parle l'album, parce qu'il faut le découvrir par soi-même.
Mm-hmm. Donc il y a une histoire sur cet album.
Ouais, c'est une histoire qui se passe en 2022, l'année zéro, apparemment, aux États-Unis. Alors, c'est une théocratie, enfin, il faut vraiment.
Ah ouais, carrément.
Ouais, c'est un gros délire qui s'est fait avec plusieurs castes. Il faut le dire pas soi-même, parce que ce serait trop long. Hein,
ok. Donc Year Zero, l'album. Ouais.
Et donc il se sert encore plus d'internet, tout ça, à cette époque-là. Mm-hmm. Et ce qui est marrant, c'est que pendant les concerts, il y a des gens qui commencent à trouver des trucs bizarres. Il y a aussi des fans qui arrivent, je crois que c'était en 2007 à Lisbonne. Ils arrivent, ils voient un t-shirt, ils achètent le t-shirt de la tournée, du concert où ils étaient. Et ils voient que sur une tranche du t-shirt, il y a un petit truc en filigrane, là, super discret et tout. Il y a je crois qu'il y avait marqué I want to believe ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Et donc ils sont allés voir sur internet I want to believe, et c'est vrai que sur internet il y avait un site qui parlait d'une société en 2022 et tout. C'est carrément un truc en fond qu'il a créé avec.
D'accord, donc et tout. Il s'est créé tout un monde, un univers autour de cet album.
Voilà, il y a tout un monde.
Après, et il a mis des clés cachées un peu sur le merch, voilà, pour que les fans aillent trouver.
Là, il l'a vu sur le t-shirt. Après, les clés, ce truc des clés, ça arrive après. Parce que ce qu'ils s'amusaient à faire, dans les chiottes, les mecs, ils arrivaient, ils trouvaient une clé USB.
Ah ouais, c'est vrai, j'en ai entendu parler
USB,
de ça.
Juste là, il la récupère, le mec, il rentre chez lui, et c'était un morceau inédit de Nine Inch Nails.
Non.
Après, ça a commencé à Lisbonne, apparemment, après c'était à Madrid, il y a eu à Barcelone, que des mecs ont trouvé. Alors, des fois, c'était des morceaux à moitié finis, ça pouvait être un morceau des Grésillements.
Ouais.
Et voilà quoi. Et il y avait toujours après.
Ils mettaient du matériel tout le temps comme
voilà,
ça.
Voilà. Ils les faisaient traîner comme ça pour le délire quoi. Et il y a beaucoup de gens du coup ils les mettaient sur internet quoi.
Ouais.
Et ça a été le cas du genre plus de morceaux où c'est qu'ils l'ont mis sur internet que du coup il est sorti de suite après parce que.
Ouais, parce qu'il avait fuité en gros quoi. Ouais, alors que c'était Reznor qui l'avait voulu.
Voilà, il avait voulu faire ça. Okay. Alors, est-ce que c'est lui? Je pense que c'est lui qui a fait ça parce que c'était au moment des concerts.
Ouais.
Enfin, lui pas pour ça. Pas
physiquement, mais ouais, qui avait demandé que ça soit fait. Qui
avait demandé que ce soit fait, quoi. Donc ils en ont retrouvé, ouais, Barcelone, Manchester.
Ouais, un peu.
Et après, c'est pareil, ils trouvaient des clés USB ou alors ils trouvaient des petits papiers avec comme des énigmes ou comme un jeu de piste qui ramenait à des sites.
Ah, okay.
Où c'est qu'il y avait chaque fois des trucs ouais, qui ramenaient à ce monde.
Ils commencent à jouer avec Internet d'une façon un peu plus ludique, voilà, pour faire découvrir son univers.
Et ça durera quand même tout le long de la tournée, quoi.
Ah, donc, ouais, d'accord, c'est assez trippant.
Donc c'est pendant un an, il a fait ça et ça. Faire son vivre son petit monde là en 2022 là
ouais, donc c'est sur l'album, tu m'as dit Year Zero,
ça c'est Year Zero, okay. C'est l'album qui traite cette société
ouais, et tu peux peut-être nous filer un ou deux morceaux de cet album pour qu'on se fasse une idée peut-être des albums emblématiques de ouais, donc de cet album.
Ouais, mais donc c'est je vais vous mettre Survivalisme,
ouais,
et The Beginning of the End.
Beginning of the End, okay. Voilà. Bon, mais on s'écoute ces deux morceaux et puis on vient parler donc de l'actu de Nanny Schnells, c'est ouais, ça, du dernier album qui vient de sortir,
voilà.
Ok, bon, mais on s'écoute ça, on revient.
Still not full. bad turn, just keep on walking. But you do the same thing in your circumstance, I'm sure you'll understand.
I got my pop volcano, I got me vision is on.
Full Boxon, émission décalée sur Gascogne FM 107.3 MHz.
Ouais, ben on se retrouve donc avec Matt et Nico là pour parler de Nine Inch Nails toujours.
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 Donc on était en 2007, après ces deux petits morceaux, Survivalism et The Beginning of the End. Et donc on est maintenant une année plus tard, en 2008, où c'est que Monsieur Reznor a commencé à triper et nous sortir des petits trucs un peu... qui n'ont rien à voir avec ce qu'il avait fait avant.
Ouais.
Il sort d'abord un espèce de double album, je crois, Ghost,
ouais.
Ça s'appelle. Alors c'est que des bandes de son musicales, on dirait que c'était fait pour mettre sur des films ou
c'est d'ailleurs, du délire. Tu faisais l'analogie avec Punish, ils ont fait ça aussi.
Oui, ils ont fait ça, ouais. L'album. Ils avaient fait comment il s'appelle cet album?
Ouais, qui était une sorte de bande son de leur film.
C'est une bande de son d'un film imaginaire.
Ouais, tout à fait. Qui était pas mal, hein.
Ouais, je me rappelle plus comment il s'appelle cet album.
Et donc, ouais, Xav, Ghost.
Ouais, Ghost 1-4, ça s'appelle. Bon, c'est que des instrumentaux. Bon, après, ça s'est écouté tranquille sur la plage, comme ça. Ça passe, il y a vachement de piano. On reconnaît la patte sur le son de Reznor, quand même.
Ouais.
Beaucoup. Et après, il sort Sleep aussi la même année. Un album vraiment, bon, dans la disco, franchement, moi, c'est un album que j'écoute pas.
Ouais, c'est la petite déception de la disco.
Ouais, parce que s'il est un peu, par rapport à ce qu'il fait, c'est un peu trop pop et tout, donc okay. Ça retombe un peu vite à plat.
Ok.
Et donc c'est pour ça que bon, on va passer vite cette période-là de.
Ouais, par contre, il a sorti deux albums en un an, c'est chose rare chez lui.
Ouais, de Ghost et Sleep, quoi.
Ouais, ouais.
Mais bon, pas de vraiment de trucs trop marquants okay. À noter.
Ok.
Et donc là, bon, maintenant il est bien indépendant et tout, il fait ce qu'il veut, on le sait, on en a expliqué un peu tout à l'heure. Hein. Il revient donc, en 2009, il avait dit. Après, donc, là, ça n'était en 2008. 2009, ouais. Il dit, bon, ben, Nine Inch Nails, actuellement, c'est bon.
J'ai fait le tour.
On a fait le tour, on va s'arrêter.
Ok, d'accord. Okay.
Donc, ils avaient fait une tournée, je ne me rappelle plus quand c'était. Déjà, c'était.
La tournée d'adieu, la fameuse.
Ah, la Wave Goodbye, ouais. Un peu la Ministry.
Je me rappelle, ouais, de cette tournée.
Juste allé voir, moi, d'ailleurs, qu'on se disait, ça y est, ils sont.
Ouais,
c'est fini, merde, c'est chier. Ils nous ont fait le coup comme Ministry. On s'en va et on revient. Voilà.
Ok.
Et ils sont, donc Reznor il revient 4 ans après.
Non, moi je pensais à Claude François plutôt. Ça s'en va et ça revient.
Ouais, mais au bout d'un moment il revient plus Claude.
Ouais.
Sachant qu'après, entre temps, il a créé un groupe aussi avec sa femme, parce que oui. Monsieur Reznor est marié. Et Atticus, je ne sais plus comment il s'appelle, non, un peu à rallonge, je ne sais plus comment il s'appelle, un autre gars. Et ils ont créé un groupe qui s'appelle How to Destroy Angels.
Ouais.
Donc on reconnaît bien la patte Reznor quand même dans la musique, et c'est sa femme qui chante.
D'accord.
Donc c'est un peu Indus.
Indus mélodique.
Indus mélodique, mais atmosphérique, mais des fois ça pète quand même. Mais c'est d'accord. un peu plus de l'Indus sur les côtés de Nine Inch Nails qui vont un peu sur le trip-hop, quoi.
D'accord.
Je sais pas comment expliquer. C'est,
ouais, ouais, ouais.
Okay, okay. Des trucs avec des basses un peu, pas funky, mais avec des sons plus ronds que de Nine Inch Nails,
ouais,
quoi.
Okay.
Après, donc, bon, il fait son petit truc avec sa femme et tout, ils font un enfant, maman, avec un nom pareil de fou furieux. Et en 2013, ils nous sortent donc Hesitation Marx.
Donc voilà, ça c'est le dernier album qui est sorti
le dernier
album. Septembre
Il est sorti, ouais, début septembre.
Ok,
là,
ok.
Comme il y a pas mal d'albums qui sont sortis, je crois, début septembre.
Ouais, ok.
Enfin bref.
Donc tu l'as écouté celui-là, toi?
Ouais. Bon, je l'ai pas écouté comme les autres albums de Nine Inch Nails. J'ai pas eu trop le temps encore de l'écouter, vraiment, parce que moi j'aime bien les écouter Nine Inch Nails 10-15 fois avant de capter bien tous les morceaux,
ouais.
De s'imprégner, quoi.
Et c'est vrai que celui-là, en première impression, premier avis.
Première impression, je trouve que il y a des morceaux pas mal, mais
ça manque de cohésion.
C'est pas une. Je pense pas que ce soit un album référentiel comme l'a pu être Downer Spiral, Broken et pour moi The Fragile.
Okay. C'est pas un grand cru, quoi.
C'est un très bon album.
D'accord.
Mais il y a pas comment dire. Il y a trop de nuances hein, entre les morceaux.
De disparité.
Il y a des morceaux. À un moment donné, il va partir sur un morceau. C'est carrément du punk presque californien. Okay. Et quand ça pète, c'est les grosses statues à la Nine Inch Nails. Après, c'est une grosse balade. Et après, bon, c'est vraiment comment dire un pot pourri d'un peu plein
ouais,
de trucs.
Ouais.
Ok.
Il y a moins de cohésion, tu veux dire.
Mais il y a moins de cohésion, mais bon, après, c'est sûr que quand on aime les albums comme Downer Spiral et The Fragile, quand on continue, qui s'écoutent du début à la fin, qui sont tout enchaînés, on se retrouve à des trucs un peu trop disparates et voilà.
Ça fait un peu trop best-of, t'as l'impression?
Ouais, ça fait
même
plus si trop best-of.
Même si c'est des morceaux nouveaux, quoi.
Ouais. Mais après, je veux pas critiquer parce que je l'ai pas assez vraiment écouté.
Donc là, tu nous donnes à peu près ton avis.
C'est un avis à froid et
il
y a quand même de bons morceaux. D'ailleurs, on va s'en écouter deux du dernier. Bon, c'est les deux morceaux qu'ils ont mis, je crois, c'était un mois avant en écoute. Et je crois qu'ils étaient pareil en libre téléchargement.
D'accord,
ok. Et c'est des morceaux, j'ai choisi des morceaux qui se rapprochent le plus d'une Nine Inch Nails conventionnelle qu'on connaît, quoi.
Et que t'aimes, surtout.
Voilà, et que je pense que je suis pas le seul.
Non, t'es pas le seul, mais. Voilà.
Et on va s'écouter Copy of A.
Ouais.
Et Came Back Haunted. Voilà.
D'accord.
Bon, ok, donc les deux morceaux qui étaient en libre téléchargement du dernier voilà. album de Nine Inch Nails.
Voilà, exactement.
Ok.
Okay.
Voilà, donc de retour après ces deux derniers morceaux de, du dernier album, tout est en dernier en ce moment, de Nine Inch Nails. Bah écoute, Exa, merci, t'as peut-être un truc à rajouter sur...
Ouais, ben disons que sur Nine Inch Nails, moi j'essaie de synthétiser un peu le truc, parce qu'il y a
un peu
tellement de choses à faire. Alors peut-être qu'on y reviendra dans une prochaine émission pour parler des remixes.
Ouais, y a pas de soucis, c'est toi qui vois ça.
Et donc on verra un peu plus, peut-être en détail, et faire plusieurs parties, on verra comment on fera. Mais bon, là vous avez à peu près bon le cheminement de Monsieur Reznor, là, donc marié, bientôt deux enfants.
Michel Reznor.
Voilà, donc avec quelques morceaux, mais après je vous conseille d'écouter par vous-même, parce que bon,
c'est toujours mieux.
C'est toujours à l'auditeur de se faire son propre avis.
Ouais.
Mais c'est quand même, Nine Inch Nails, ça reste un univers riche et à explorer tranquillement. Quoi.
D'accord.
Et donc voilà, moi je vais vous laisser.
Mais écoute, c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure cette émission de Full Boxon d'octobre.
Ouais.
Ben écoutez les gars, c'était sympa, on a passé un bon petit moment, voilà. On a parlé beaucoup de films, mais on a aussi parlé musique.
Bah oui.
Donc voilà, j'espère que on va continuer dans cette veine. Si vous avez des idées, les auditeurs de Gascogne FM, n'hésitez pas à communiquer avec le site Gascogne FM pour nous dire ce que vous pensez, ou sur Facebook, vous pensez. Voilà, donc c'est une émission ouverte. Merci encore. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission. Merci. Bah
ouais. Ciao.
Les gars, un petit mot.
Oh, ben ça va, ben c'est tranquille. Vive Freddie Mercury.
Ouais, c'est ça.
Freddie Mercury.
Bon allez, on se quitte et on se retrouve bientôt. Ciao.
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 Je vous emmerde et je rentre à ma maison.